I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Merci à vous de regarder Un Bon Moment. On est très heureux. Venez nous voir sur scène avec Navon en première partie. On sera à Marseille, Lyon, Brest, Lille, Reims, Paris, Caen, Toulouse, Bordeaux, Bruxelles. On finit dans les plus grandes salles de France. Ça va être vraiment le feu. Prenez soin de vous et bon moment. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Un Bon Moment, c'est ma voix de présentateur, je fais et je frappe les consonnes et j'ouvre les voyelles. Je suis toujours accompagné de mon pote Navo, comment ça va ?
Mais écoute, super !
Mais pourquoi ?
Mais parce qu'ils vont arrêter de nous faire chier en demandant « Mais quand est-ce que vous faites un épisode avec Alexandre Astier ?»
Parce qu'il est là, Alexandre Astier.
Il y a une petite aigreur sur ce plateau, il y a une petite, je savais, on me l'avait dit.
Je suis pas aigri.
On me l'avait dit, si, il y a un petit côté, c'est bon, ils vont arrêter de le dire. Ok, on est sur ce
Envers terrain. Eux, envers eux.
Comment ça va, Alex ?
Bien, et vous-même ?
Oh, super. Jeune gens. On se tutoie.
Oui. Non, je disais vous-même, vous deux.
Mmh. Une habitude qu'on ignore.
Très excité à l'idée de te recevoir.
J'aime beaucoup l'image de cette émission.
Merci.
Je te l'ai dit, non ?
Merci. Bah, il faut féliciter Nicolas Béguet et Jocelyn Billot qui sont à l'image.
Bah, écoutez, on est jolis. On est jolis chez vous.
On est beau. Hein.
On est beau gosse. Mais j'aime bien quand on a des peaux plutôt douces.
Absolument.
Parce que c'est toujours un peu le problème des interviews, c'est toujours un peu genre... Bah film, c'est pas grave, film, tu vois, et on essaie toujours d'acheter un truc.
Un traitement un peu cinéma, tu vois, c'est pas tout est éclairé comme à la télé.
Ouais, c'est vrai. Il y a du sombre. Tu prends un t'aimes bien aussi avoir une belle image dans tous tes trucs.
J'essaye. On a eu une caméra très amusante pour le film.
Ouais. Ouais.
Alexa 65. Bah, c'est un moyen format. Tu vas avoir un capteur à peu près gros comme ça.
Ouais.
Une télé, en faisant une télé dedans. Ouais. Et puis, tu es suivi par un camion pour les datas, parce qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup
la réalité.
De data. C'est ça.
C'est Ghostbusters, mais voilà.
C'est ça, exactement. Mais ça paye.
C'est quoi l'espace pour toi, Alexandre Astier ?
La bagnole ?
Non.
Qu'est-ce que c'est l'espace pour moi ?
Ouais. Qu'est-ce que tu ça trouves de philosophique ?
Une seule phrase ?
Non, mais...
Deux.
Minimum.
Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est d'essayer, bien humblement, de se faire une petite idée des distances, voilà, des mesures. Parce qu'on sait que c'est loin. On sait que tout est loin. Mais à quel point c'est loin ? Il y a une petite appli qui est chouette, qui permet de voyager du soleil aux frontières du système solaire, comme ça. Et puis, tu sais,
tu scrolles, ça ne s'arrête jamais.
Et puis, c'est un tout petit truc que tu croises, surtout. Mercure, c'est long, rien que Mercure. Ah, et tu as une petite bibille
pour aller là-bas.
Tu scrolles pendant 10 minutes, après tu as un petit truc comme ça.
Absolument. Et quand tu as passé Mercure, tu te dis, bon, bah, maman, il va y avoir Vénus quelque part, mais il faut rescroller pendant des minutes entières avant de...
Mais t'es payé pour ça ou
Pas du tout.
C'est juste. Il y a ton fil d'Instagram qui apparaît en même temps, comme ça tu peux voir aussi. Parce que tu
le gars a mis des petites blagues. Il met des petites infos.
On n'y est pas encore. Continue de scroller, change de main. Absolument.
Et comme dans les bouquins, pour montrer le système solaire, c'est complètement faussé. T'as le soleil, t'as les planètes comme ça.
Bah, il faut que tout tienne sur une double
page. On a cette idée.
Des grosses bouboules en pâte à modeler, tu sais, qui se tournent autour. En fait, absolument pas. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans le désert, ça.
Ah, t'as vu ce gars, c'est vrai que j'allais te dire, qui met une balle de...
Mais je sais pas,
il met un faux soleil, puis il part en bagnole.
Ouais.
Pour dire, maintenant, on va mettre la Terre. Bon, il va...
Il fait ça dans le désert.
Il met une bille.
Bah, il y a que
ça, c'est la Terre par rapport au soleil qui est là-bas.
Ah ouais, putain, t'es mortel.
Donc ça remet les choses en perspective. Donc l'espace, d'abord, c'est... il me semble que le premier truc qui me vient à propos de l'espace, c'est les distances infranchissables. J'insiste sur infranchissables. Il y a quelques distances qui sont franchissables, mais sur les trucs qui sont très, très, très près de nous. Voilà. On va rester là, on va pas aller beaucoup plus loin que ça.
Moi, ça me fout un gros vertige à chaque fois. J'ai l'impression d'être vraiment la fourmi d'une fourmi devant un être humain. Et je me dis, bah, en fait, ça se trouve, nous, on est la fourmi, c'est notre façon d'être une fourmi.
Mais c'est pire qu'une fourmi, en termes de distance, dans l'univers.
Et c'est la philosophie derrière ça, c'est quoi ? C'est le...
Bah, disons que quand tu vois le nombre d'endroits qui nous sont totalement hostiles, totalement inhospitaliers, en fait, partout, dès qu'on jette un truc, une sonde, un machin, On arrive dans un endroit, nous, on y va, on meurt. Tout de suite, pouf. Donc, du coup, il s'est passé un petit scénario ici, là, chez nous, qui fait que la vie prolifère, qu'on est là, que...
On fait des belles images.
Voilà, que la matière a pu se complexifier jusqu'à donner, tu vois, ce grain de raisin, tu te rends compte.
Ouais, c'est fou.
Ça, c'est quand même assez fou. Le truc, c'est que on peut être que là, quoi. Et philosophiquement, je trouve que ce n'est pas une super nouvelle, mais on est contextuel là où on est, nulle part ailleurs. On n'aura pas pu vivre plus tôt dans l'univers et on ne pourra plus vivre dans plus tard, parce que ça sera plus fait pour nous. Donc, notre existence est
ouais, j'avoue,
extrêmement
précaire. On est des gros chanceux.
C'est le sweet spot, le sweet place, quoi.
On est un peu le place to be. Les gens veulent rentrer en boîte, mais ils y sont déjà, en fait.
C'est plutôt religieux comme notion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la place to be et du coup, on be in the place. Ouais, mais ouais. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a la place et qu'elle a permis de, une espèce de prolifération de la matière, tu
ouais,
vois,
ouais,
un blablabla comme ça. Donc nous, on est là, on n'est pas à place to be, on est juste là, au seul endroit où on peut être parce qu'on vient de là, c'est tout. On n'ira nulle part ailleurs. Et
c'est,
et voilà,
c'est quelque chose qui t'habite tous les jours. Tous les jours, t'es dans l'espace. Ou c'est une philosophie. Parce que moi, quand j'ai, enfin, y a pas que ton spectacle qui traite de ça, mais je vois que t'es vraiment fasciné par ça. Tu observes les étoiles.
Disons que j'ai l'impression qu'en fait, il me semble que le monde irait mieux aujourd'hui. C'était peut-être pas toujours le cas. Le monde irait mieux si les gens avaient un esprit critique et juste une petite connaissance de ce truc-là. C'est-à-dire ne pas remplacer ce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas grand-chose, par religion, un dieu, un truc qui nous disent qu'après la mort, on va savoir ce qui se passe. Si on prend bien les peurs dans la gueule, si on prend bien notre position dans tout ça, et qu'on ne va pas chercher à répondre aux questions qui sont pas faites pour être résolues, il se passe un truc dans la tête. Alors, on a un peu plus peur. On ne sert pas à grand-chose. On va très vite disparaître. Mais je trouve que c'est plus chouette avec le reste. On est plus carré. On ne peut pas se faire une philosophie avec toutes les tuiles qui nous arrivent dans la vie, parce que du coup, on ne peut pas compter sur... Voilà. Mais sinon, moi, je trouve que c'est bien d'étudier ça, ne serait-ce que pour ne pas remplacer l'inconnu par des trucs...
On nous avait appris ça à l'école, pourtant. On nous avait dit Neptune, machin, j'ai un jeu qui s'appelait Excellence. Ouais. On jouait quand j'étais gamin. Voilà, c'était Hôtel, enfin, c'était le Monopoly, mais de l'espace.
Ouais.
J'ai pas compris quand j'étais gamin. J'ai pas compris que c'était immense, j'ai pas compris que c'était infini, j'ai pas compris que c'était...
Mais non, mais pas parce que, comme dit Navo, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on te met sur une double page le système solaire avec des grosses bouboules. C'est-à-dire qu'on te refait une petite maison.
Mais on te dit que c'est la maison, ça.
Oui, c'est notre maison, puis il y a la maison d'à côté, il suffit de faire boum, on y est, etc. Et puis tout ça est tout rond, ça tourne autour, et puis voilà. Mais...
Alors qu'on sait bien que c'est plat.
Alors qu'on sait bien que c'est plat.
La Terre, elle est plate.
Bah, je pense. Moi, je pense aussi. J'ai vu une vidéo YouTube là-dessus, donc je la crois.
Moi aussi.
Oui, bah oui.
Si c'est sur YouTube, c'est vrai.
Bah, je pense. Absolument. On est sur YouTube.
Ouais, ouais, c'est plat. C'est plat et on n'est jamais allé sur la Lune.
C'est pourquoi ?
C'est une fiction.
C'est une fiction.
C'est Kubrick.
C'est Kubrick qui...
Tu sais qu'il y a des gens qui vont isoler ce passage. Tu sais qu'il y a des gens qui vont vraiment isoler ce passage. Les gars, ils vont se nourrir. Juste, tu vas te retrouver dans un vieux montage YouTube.
Ah, si, avec nous.
Avec la vidéo de la musique de Requiem for a Dream.
Il le dit lui-même. C'est plat et on n'est jamais allé sur la Lune. Grosse erreur. Pourtant, ce n'est pas mon premier, mais c'est une grosse erreur.
C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je t'entends opposer les croyances, ce qui pour moi relève du monde de la croyance, à la science, ouais. Alors qu'il y a plein de scientifiques qui sont croyants.
Ouais.
J'ai l'impression que toi, il y a vraiment un côté très radical de « ça me fait chier les religions
ouais, ».
Tout science, soyons sceptiques jusqu'au bout et arrêtons de croire à quoi que ce soit.
Non, parce que ce serait bizarre de dire que la science, c'est juste du scepticisme. Ce n'est pas juste le drapeau du sceptique, la science. C'est d'abord le premier moteur humble qu'on ait, c'est-à-dire j'observe, j'essaye de comprendre. Et en plus de ça, le monde de la science est fait de telle sorte, c'est que tu sors un papier, parce que tu crois avoir compris un truc, et le premier réflexe de tous tes potes scientifiques, c'est d'essayer de le démonter. Ça marche comme ça. Et le papier qui résiste à tout cet effort de démontage, on peut commencer à dire, il y a peut-être une règle là-dessous, on a peut-être trouvé un truc, mais... Je trouve ça assez sain comme truc. Tu vois.
C'est plus le fait de l'opposer à la croyance.
C'est une question.
Ça fait longtemps que j'ai envie de te la poser. Je suis content qu'on soit là.
Alors repose-la. Vas-y, repose-la, je t'écoute.
Pourquoi tu les opposes ? J'ai l'impression que tu les opposes, alors que, par exemple, moi, dans mon cas, je me dis, mais c'est deux choses différentes. Je c'est même bizarre de faire de la fiction, qui est une croyance. Tu nous fais croire à des histoires, tu fais croire à des choses qui peuvent même nous rassurer, qui peuvent avoir la même fonction qu'une religion.
Comme médicament.
Oui, voilà.
Non seulement ça, mais je crois que dans tout ce que j'ai écrit, la magie existe, ouais. Dieu existe, les religions existent, c'est vrai.
Et tu l'opposes à la science. Et pourtant, je suis d'accord avec toi sur le fait que les croyances, à mon sens aussi, moi, je suis athée, je pense qu'elles ont été créées pour répondre à des questions auxquelles on n'a pas les réponses scientifiquement. Mais c'est le fait de les opposer comme si c'était vraiment... tu vois ce que je veux dire ?
Oui, alors, effectivement, je trouve que il y a plusieurs façons d'avoir une religion, quand même. Il y a des religions, il y a des gens qui exercent une religion parce que leur famille l'a toujours fait, parce que c'est éducation. Pour se sentir un peu à la maison, c'est pour faire un peu comme les autres.
Peut-être juste la croyance, hein. Peut-être c'est... des religions, mais c'est plus la croyance.
Oui, parce que là, je ne parle pas de la tradition sympa qui tolère les traditions des autres. Et je ne parle pas de... Non, moi, ce dont je parle, c'est ceux qui ont la réponse au mystère de l'univers dans le cœur de la religion. Et généralement, les civilisations qui ont axé leur progression dans la religion, généralement, ils reculent en science, bizarrement. Donc, c'est pas que je veux forcément opposer tout ça, parce que tu as raison, c'est un peu con. Et il y en a qui arrivent à faire cohabiter les deux. Je me pose quand même la question de savoir comment. Surtout aujourd'hui, je parle pas forcément de tout temps. Mais aujourd'hui, où c'est assez cool de dire je suis athée, puisque tu viens de le dire sur YouTube et personne ne va t'envoyer des... Si, peut-être que les gens vont t'envoyer deux, trois merdes.
Après, on est aussi dans un... C'est particulier, la France, je crois que c'est un des rares pays où, je crois, dans le...
C'est un des seuls pays où on n'est pas dans une religion d'État.
Oui, puis même où les athées sont limite majoritaires quand tu prends tous les... Mais je crois que dans le monde, c'est la seule minorité dont je fais partie, je crois, c'est les athées.
Oui, notre président, il jure pas sur la Bible.
Non. Mais c'est ça, c'est on est un des seuls États en France.
Mais je veux dire, au-delà du fait qu'on s'est parlé.
Il y en a trois ou quatre.
Au-delà du fait qu'on s'est parlé l'État et l'Église, je veux dire, le nombre d'athées qu'il y a en France est bien supérieur au nombre d'athées qu'il y a dans le monde.
Oui, oui.
Alors, j'ai plus les chiffres, donc je vais pas dire n'importe quoi.
J'ai pas les chiffres.
Mais en gros, le fait qu'on ait pas la réponse, moi, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Toi, tu vas dire rien. OK ?
Non, je vais pas dire rien.
Si toi, tu vas dire rien, le fait que quelqu'un décide de. Moi, ça m'embête quand la personne arrête de dire je crois en quelque chose et elle dit je sais quelque chose. Sinon, tu le sais pas, tu le crois. Une croyance, par définition, c'est quelque chose auquel on croit. Limite, même dans ton bouquin, c'est écrit, ça ne te pose pas trop de questions, parce que si tu commences à essayer de le prouver, c'est que tu n'es plus en train de croire.
Oui, alors il faut savoir le lire. Hein.
Oh, je l'ai lu en diagonale.
Ah, il faut savoir le lire.
Je l'ai lu en diagonale.
Tous les mecs qui avaient une religion dans la poche... Écoute-moi, l'autre jour, j'étais au supermarché. Je dirige mon caddie vers les caisses. J'ai l'habitude de payer en sortant... Me barre pas.
Assez honnête quand même.
En courant.
Franchement, c'est assez honnête. Ouais. Coup,
je suis content que les gens le sachent en plus.
Vous êtes formidable.
Que je me permets pas de me tirer comme ça avec ma bouffe. Tu vois.
Tu pourrais en plus. Les gens diront bah non,
mais. Je suis astier.
Non, mais c'est là que son astuce. Il reviendra.
Il y a certainement son assistant qui va arriver après pour payer. C'est comme Johnny Hallyday.
Avec une mallette.
Qui me fait croire que j'ai le droit de tout prendre.
Je crois que Johnny Hallyday, je crois qu'il faisait ça. Il rentrait, il prenait des trucs. Et puis il y avait un mec qui arrivait derrière en disant alors qu'est-ce qu'il a pris, Johnny. Puis il payait.
J'aurais pas voulu avoir cette vie-là. Bref, j'étais dans un magasin et il y a un jeune homme qui se pointe vers moi. Et il se pointe vers moi avec l'attitude classique de quelqu'un qui m'a reconnu en disant « je voudrais que vous me signiez un truc ». Et en fait, il disait « oui, alors, on vient de me dire que vous étiez connu ».
L'info vient de tomber.
C'est un peu bizarre. Alors, je ne vous connais pas du tout, hein, je ne suis pas à la télévision. J'adore. Alors, je n'ai pas la télévision avec un petit truc de dire « je fais partie des gens intelligents ». C'est léger, tu sais, ça passe par-dessous comme ça, mais j'ai pas la télévision, sous-entendu, évidemment. Et non, moi j'ai rencontré Jésus à 18 ans.
Le gars est...
Quand je dis rencontrer, le verbe c'est rencontrer. Je vous parle du verbe, premier groupe, rencontrer. J'ai rencontré Jésus à 18 ans. Alors moi, tout de suite, j'ai un petit... Ouais, alors moi, attention, les églises, et je prononce le mot église, et le mec me dit, non, moi je fais partie d'aucune église, moi. Aucune, pas du tout. J'ai rencontré Jésus à 18 ans. Je vous donne un fascicule. Fascicule imprimé, tout de même.
D'aucune église, voici le
d'aucune
fascicule.
D'aucune église.
Il n'y avait rien sur le fascicule.
et du coup, j'ai essayé d'expliquer deux secondes. Hein, je n'avais pas que ça à faire, mais deux secondes que j'étais pas... j'avais pas envie de lire son fascicule et qu'il l'économise peut-être pour un autre, tout ça. Mais je n'ai pas eu, j'ai pas eu cette chance-là. Il a fallu qu'il me laisse le truc. Il a fallu qu'il. Il y a un encouragement. Il y a un prosélytisme quand même qui est quand même un petit peu gênant. Et on va dire que moi je parle de ça. Voilà. Quand un mec me dit j'ai rencontré Jésus à 18 ans, je peux plus lui parler parce qu'il veut plus que je lui parle, en fait. Il veut que je lui parle si je vais dans son sens. Si j'y vais pas, il va pas vouloir entendre tout ce que j'ai à dire. Et moi, c'est ça qui me gêne. Je crois que je suis gêné par les gens qui veulent que leur film soit le seul. Voilà. Alors, du coup, ça donne des gens comme moi qui, finalement, finissent par avoir un film où j'aimerais bien que ce soit le seul. Mais le mien, il est nourri.
Il suffisait d'un silence pour qu'il se rende compte. C'est de sa propre... Oh, putain, attends,
oui, mais le mien, il est dans l'expérience. OK, il est dans l'observation et l'expérience de ce qu'il y a autour.
Dans le essi.
Dans le essi. Parce que c'est vrai que le essi est important.
Bah ouais.
Il y a des rêveurs chez les scientifiques, beaucoup.
Mais oui, il y a des scientifiques qui deviennent d'ailleurs croyants. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui ont travaillé toute leur vie et c'est déjà arrivé que vers 70 piges, les gars, ils deviennent croyants, quoi.
C'est peut-être l'approche de la mort, ça.
Oui, aussi.
Oh,
t'as les jetons de ne pas avoir fait ce qu'il fallait.
Je me retrouve dans la file d'attente
peut-être
au cas où. Ouais. Au cas où, s'il y a une file d'attente.
On va faire le Paris Pascal.
Jusqu'à la fin, là.
Peut-être, absolument.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui disent à un moment, c'est devenu. Plus j'ai compris la magie de la vie et de ce que j'avais sous les yeux, plus je me suis mis à croire qu'il était possible que quelque
tout,
chose...
Ouais, que tout ça, c'était parfaitement impossible sans un architecte, ouais. Quel qu'il soit. Mais ceci dit, c'est une très belle question. C'est une très belle question, parce qu'il y a l'air d'avoir des règles. Il y a l'air d'avoir des règles.
Qui sont les mêmes partout.
Absolument. Il y a quatre grandes forces, mais si on en prend une au hasard dans ces quatre, on prend l'électromagnétisme, il se trouve que ça attire ça. Comment ça se fait que ça attire ça? Pourquoi est-ce que ça attire ça? Pourquoi est-ce que ça l'attire?
Quand je me pose la question, je pète un câble, je suis là genre... Oh non.
Il y a des règles et
vide.
Et ce qui est fou, c'est l'évolution aussi. Et je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que les choses tendent à faire l'évolution. A priori, fait des essais de partout. Et puis quand elle fait un animal, comme dans un jeu vidéo, avec des dents, des trucs, des pattes qui nagent ou qui volent, etc., puis qui ne marchent pas parce qu'il se fait bouffer par les autres, on abandonne le projet, puis on se concentre sur autre chose. C'est vraiment ça, l'évolution.
C'est le capitalisme, quoi, l'évolution, c'est ça.
Complètement. Mais avec des défauts. Par exemple, on a les dents de sagesse qui ne nous servent plus à rien, la moitié d'entre
eux, on est
obligé de les enlever.
Je pense que ça, c'est une vision où on a l'impression d'être la version,
vrai, putain,
une version aboutie du truc, alors qu'on
n'est
qu'une transition.
Absolument.
Donc on a des dents de sagesse, on a des machins, parce qu'on est en
transition tout le temps.
Un truc qui va être quelque chose dans un million d'années, peut-être. Peut-être moins.
Je sais pas.
Allez, 10 000.
Je sais pas si ça va durer jusque-là.
Bon, peut-être 20 ans, peut-être, à cause des bombes nucléaires. Mais en tout cas. Mais moi, ça ne me crée pas religieux. Enfin, ça ne me crée pas un dieu. Ça me crée des mondes parallèles. Où je pense que toutes les possibilités existent et qu'on est, a fortiori pour s'en rendre compte, dans la possibilité où les règles de la physique, puis l'instant T, le machin, la planète, à l'endroit, voilà, c'est la seule où on est bien placé pour s'en rendre compte. Il y a peut-être un monde parallèle.
L'idée de la simulation, ça t'intéresse.
Ton électromagnétisme, il change de 0,00 quelque chose et plus rien ne se passe. Comme si l'univers avait tout tenté.
Il y en a qui pensent que tous les univers existent.
Ouais.
Moi, et que toutes les versions des univers existent.
Stanley, moi, Stanley le pense.
Stanley ne nous dit pas qui est le grand créateur, si
non.
Je ne m'abuse.
Non. Il met le Watcher.
C'est lui.
Mais hein? Il met le Watcher.
C'est parce que c'est lui.
Ouais.
Ah, peut-être.
Merde, putain.
C'est signé, on a peut-être trouvé un sacré truc aujourd'hui.
On est peut-être juste dans une œuvre d'un Stanley.
Qu'est-ce que tu penses des gars qui vont sur Mars, des gens qui ont cet objectif d'aller s'installer ailleurs? C'est vraiment un objectif avoué par Elon Musk qui dit
on va aller faire des colonies.
Qui dit on va aller faire une colonie sur Mars, ça va être un aller sans retour, ça sera comme ça et voilà, ça va être top.
Je pense qu'il se rend pas compte à quel point c'est tout pourri d'être sur Mars.
Mais non, mais c'est très hostile. Comment quel est, c'est quoi?
Dis-moi qu'on va vivre déjà au fond des abysses. Ça, c'est moins loin,
déjà,
c'est tout aussi dur. Allez, regarde.
Ouais, non, j'avoue que je vois pas. Je pense que pour la science et pour la découverte, les robots font un travail de fou,
ouais.
Et que ça suffit vraiment. La présence, elle est poétique. Elle est. Je suis pas persuadé que ça puisse transporter l'humanité tout autant que ça l'a fait quand Armstrong a l'uni. Parce que c'était la première fois qu'on mettait le pied sur un autre astre et que je pense que le monde entier, il n'y avait qu'une chaîne de télé et que d'un coup, ça a pris un truc. Je ne sais pas si maintenant...
Très bon placement produit à l'époque.
Absolument.
Des brosses à dents.
Et il y a Solblad. Il y a Solblad. Ils ont fait toutes leurs photos au Solblad.
Ah bon, c'est
vrai ? Solblad Special Moon. Joli.
Et c'était les mêmes à Solblad, mais ils avaient écrit Special Moon dessus.
Non, voilà, je pense qu'il y a un truc qui fait que... Je pense qu'on n'a rien à y faire. Une colonie, de toute façon, pour avoir un peu de confort sur Mars, il faudrait qu'on mute. On parle de milliers d'années.
Bah, c'est surtout, il faut faire des espèces de grandes bulles.
Ah bah, tu vis sur Terre sous bulle,
dôme,
oui.
Donc tu dis, bon, bah,
On va refaire du 21 degrés, on va refaire de l'eau douce, on va refaire...
Autant le faire ici. En fait, je pense qu'on veut rendre, on veut donner l'impression que c'est scientifique. Il y a deux choses, c'est je suis parti.
Merde.
On veut donner l'impression qu'être sur Mars, c'est scientifique, alors que ça l'est pas. Je pensais juste un rêve humain d'un truc de on va aller conquérir une nouvelle Terre. En fait, on a posé le pied dessus.
C'est dans nos gènes, d'ailleurs, d'aller conquérir de nouvelles Terres. On le fait depuis le début de l'humanité.
Le fait de faire genre, c'est scientifique, je vois pas ce que ça va apporter, plutôt que d'envoyer un robot qui ramène des échantillons. Par contre, je pense que le fait d'essayer de le faire, ça va ramener plein de
technologies
nécessaires pour le faire qui vont servir sur Terre.
Comme la NASA qui a travaillé sur cette transformation du CO2 en nourriture ou de l'oxygène en nourriture, tu vois, qui sont des
avancées incroyables pour l'humanité. C'est un peu comme toutes les nouvelles technologies qu'on a grâce à la guerre.
Même à l'époque de la Lune. À l'époque de la Lune, il a fallu inventer le Velcro, il a fallu inventer tout un tas de trucs qui sont dans nos vies de tous les jours. Du vitrage, du machin, il y a plein de trucs qui nous restent de ça. Alors que le pied sur la Lune, en lui-même, il ne sert pas forcément à grand-chose à la science. Ce n'est pas parce qu'on y a été qu'on aurait pu ramener tout ça, pareil, avec des drones, avec des pierres lunaires qu'on ramène d'une façon ou d'une autre. Le coup de com', c'était de mettre le pied dessus. Mais ce n'est pas ça qui a servi le plus.
Parce que tous ceux qui sont retournés, on s'en fout de leur nom.
Je ne les ai pas tous.
Oui, c'est vrai.
Nous, on n'a pas dit merci au quatrième qui allait sur la Lune de nous avoir ramené ce caillou. On a juste dit, le premier...
C'était le drame, d'ailleurs, de...
Buzz Aldrin ?
Non, pas de Buzz Aldrin, tu sais, celle qui s'est mal passée là.
Apollo 13 ?
Apollo 13.
Ouais.
Parce qu'ils faisaient semblant d'être en direct et en fait, ils n'étaient pas du tout en direct. Et ils disaient genre, on adore, regardez l'espace. Et en fait, personne ne regardait parce qu'ils pensaient qu'ils étaient sur une chaîne. Et en fait, tu vois, ils faisaient des vidéos à la Terre, genre, salut la Terre, ça va et tout. Et en fait, à l'époque, tout le monde s'en foutait de la Lune. Après,
on les avait déprogrammés.
Ouais. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Le gars était là, super et tout. Maintenant, Thomas Pesquet, c'est incroyable ce qu'il fait. On est là, genre, waouh. C'est quoi ta vision poétique des trous noirs? Le trou noir, pour moi, c'est le truc le plus fascinant.
Il faut savoir que Kian sort un album qui s'appelle L'horizon des événements.
Oui.
Vous avez un peu ça en commun autour de la beauté de l'espace, en tout cas. Ce qu'il y a de beau et de poétique dans l'espace.
Un album où il chante.
Un album où il chante.
Sur les mystères de l'espace.
Non.
Je me sers de l'espace pour exprimer l'entrée dans un trou noir et la sortie d'un trou noir.
Pour parler d'amour. C'est ça, son album.
Ouais, le trou noir, je trouve que c'est très difficile d'en faire quelque chose de sensuel. Je trouve que c'est très difficile.
Non, le trou noir dans l'espace.
Non, j'insiste, je suis de l'espace.
Okay.
J'ai beaucoup de mal. Je sais pas, je trouve que
T'es frais ? Comment ça existe, ce truc? C'est quoi? C'est un paradoxe physique? C'est quoi? Je trouve ça fou.
C'est une densité qui n'a pas de sens pour nous.
Ouais.
Voilà. L'effet spaghetti, vous voyez ce que c'est, l'effet spaghetti?
Ouais.
C'est chaud quand même, l'effet spaghetti. L'effet spaghetti, ça, en fait, comme il y a une densité de fou qui t'attire là-dedans, les calculs relativistes se mettent en route. Et du coup, si tu t'approches... par les jambes d'un trou noir, t'es censé avoir des jambes de 100 km et puis une petite tête comme ça. Mais c'est réel, c'est pas...
C'est ce qui arriverait si t'y allais.
Ouais, c'est vraiment ce qui arriverait si t'y allais. Voilà.
Et c'est fou que ça existe, qu'on l'ait vu, qu'on le voit.
On le voit pas, le trou noir.
Si, il y a une photo.
Il y a une photo où on voit justement la lentille, la distorsion de la lentille, parce que ça déforme. Enfin, je trouve ça incroyable que ça existe. Le monde devrait s'arrêter et dire, les gars, il y a des trous noirs. Est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes?
Non, il s'arrête.
Non, parce que lui, il n'a pas klaxonné, il ne m'a pas laissé passer à droite. Non, mais attends, il y a des trous noirs, je ne sais pas si tu te rends compte. Quand j'ai appris ça, j'étais là genre, oh, c'est incroyable, les gars, mais calmons-nous, tu vois.
Mais c'est comment... Tu vois, en 95, il y a Michel Mayor, il est prix Nobel maintenant, qui a découvert la première exoplanète. Donc, du coup, jusqu'en 95, on se disait, notre étoile, elle a 8-9 planètes autour, selon si on s'engueule ou pas. Et puis, l'univers est rempli d'étoiles et de galaxies, mais on ne peut pas apporter la preuve que toutes ces étoiles sont entourées à leur tour d'un système planétaire, avec des, ce qui, quand même, agrandirait la possibilité de monde. Et en 95, il y a un mec qui a dit, si, moi, j'en ai trouvé une, c'est bon, elle y est. La voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer, aujourd'hui, on en connaît plus de 5000, mais à partir de ce jour-là, on a pu se dire, toutes les étoiles qu'on voit, on peut s'imaginer un système planétaire autour, avec des terres potentielles.
Surtout qu'en plus, quasiment tout en nombre maintenant. On se rend compte que c'est hyper rare qu'il n'y en ait pas.
Que c'est la nature de l'univers. Oui, absolument. Michel Mayor, si tu sors dans la rue, il n'y a pas grand monde qui sait qui c'est.
Même un gars qui a rencontré Jésus à 18 ans, on ne l'arrête pas au supermarché.
Exactement.
Excusez-moi, je peux vous dire.
Et d'ailleurs, pareil, hein, pareil que le bouquin avec toutes les planètes, le nombre de personnes autour de moi qui pensent que ce qu'on voit quand ils disent on a découvert une exoplanète et qu'il y a une image, ils pensent que c'est une image de la planète.
Ah oui, c'est pas une.
Alors que c'est des vues d'artistes.
Faut marquer
c'est
à chaque fois.
Complètement impossible de voir une planète. On a déjà du mal à.
Alors, ils ont réussi à faire une photo. C'est-à-dire qu'ils ont masqué l'étoile et ils ont réussi, à force de prendre les photons, c'est un par semaine. Et du coup.
T'as deux pixels.
Il y a deux pixels et c'est la planète. Mais c'est la vraie photo d'une exoplanète. C'est-à-dire une planète qui tourne autour d'un autre astre que le
Soleil. Tout le reste, là, quand tu vois des planètes vertes avec des nuages jaunes en disant on a trouvé une exoplanète, non, faux.
C'est une vue artistique.
C'est un artiste qui
l'a fait. Vision artistique. Il y en a plein des vidéos d'ailleurs sur Internet de gens comme ça et tout.
Et généralement, il y a un truc qu'on ne sait pas trop non plus, c'est que la NASA annonce qu'on a trouvé une cousine de la Terre qui est potentiellement accueillante pour l'humanité. Généralement, c'est une semaine avant le vote des budgets.
La garde.
Vous voyez qu'on sert à quelque chose.
Garde-la pour plus tard.
La garde sous le coude.
Absolument.
Puis généralement, c'est jamais la même densité que la Terre, ce qui fait que quand tu atterris, tu pourras jamais redécoller parce que tu n'auras jamais assez de fuel pour t'arracher de la pesanteur.
Exactement.
De la Terre. Et puis, ils disent pas trop fort combien de temps ça mettrait pour y aller.
Non.
Ouais.
Parce que sinon, bah, ça sert à rien de vous donner du fric pour ça.
Putain, c'est fascinant. Mais tu te retrouves sur une planète, t'es seul. Il y a son père.
Et t'as le soleil au fond. Toi, t'as l'habitude de le voir comme ça à peu près.
Ouais.
Là, il est comme ça. Tu reçois presque rien.
C'est une étoile la nuit.
Ouais.
C'est ton soleil.
C'est le tien.
Ah, putain.
Monsieur, elle est pas
bleue. Le simple fait, il y a une autre data qui m'a fait péter un câble, c'est quand tu vois quelque chose dans le ciel. Il n'existe peut-être déjà plus.
Oui.
Alors ça, mon pote, ça veut dire que s'il y avait une civilisation qui nous regardait de maintenant, il y a de grandes chances qu'au moment où nous, on reçoit le signal de la civilisation, c'est ciao depuis...
Il y a une blague comme ça dans Futurama.
Ah oui ?
Où c'est des extraterrestres qui sont à 1000 années-lumière de la Terre.
Oui, ça me dit quelque chose.
Et donc, eux, ils captent Ally McBeal. Mais en fait, eux, parce que Futurama, c'est un mec qui vient en 2999, mais qui vient de 1999. Et donc, en fait, ils captent Ally McBeal. Eux, ils peuvent se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Mais du coup, quand ils arrivent, ils disent « Ouais, vous avez annulé la série, on voit la suite. » Il y a 1000 ans qui sont écoulés. Et le héros, du coup, qui est le seul qui vient de 1999, est le seul qui connaît encore Ally McBeal. Et il dit « Putain, il faut qu'on refasse Ally McBeal, sinon ils vont nous détruire. » Du coup, il y avait cette idée qu'eux, ils sont en train de regarder la télé terrestre 1000 ans plus tard. Quoi. Ils ont 1000 ans de décart.
En fait, nous, la vitesse de la lumière, on peut dire qu'elle est instantanée. On peut dire que c'est allumé, éteint, clac-clac. Parce que ça nous va, parce que du coup, les horloges sont les mêmes pour tout le monde, on peut prendre des rendez-vous, tout ça, machin. Mais en fait, à l'échelle de l'univers, c'est un truc assez lent, la vitesse de la lumière.
C'est fou.
Ça voyage lentement, et c'est la limite vitesse de l'univers. Donc du coup, effectivement, un signal numérique, un signal de ce que tu veux... il ne va pas plus vite que la vitesse de la lumière. Ils ne le disent pas, ça. Quand on découvre une planète, on a l'impression de recevoir des signaux d'une planète qui est à 1500 années-lumière. Si on les reçoit, c'est qu'ils ont été émis à 1500. Que si on dit, on vous a bien compris, c'est 1500 de plus. Et quand on dit, vous étiez là, 1500, ça fait 4500 ans, tout de suite, on va...
Et encore, on vous a bien compris, il faudra leur envoyer en lumière. On risque de leur envoyer en onde. Donc là, c'est beaucoup plus long.
Et l'autre problème qu'il y a, que j'ai compris en discutant avec des ingénieurs de gens qui ont envoyé la comète.
Chez Moulinex.
Oui, ou de chez Moulinex, absolument. C'est qu'en fait, plus c'est loin, plus c'est dur de viser, évidemment. Parce que ton champ est très... Si tu vises un truc qui est juste là, ça va. Si tu vises un truc qui est à 1000 années-lumière,
un micron,
le moindre, tu n'y es plus, quoi. Donc, voilà. Moi, je trouve ça bien que... À chaque fois que je reçois une information qui dit qu'on a une très petite possibilité dans ce domaine-là de sortir, en tout cas, tout ce qui est dehors, à part l'observation, le voyage juste à côté de chez nous, pas beaucoup. Non, on est là. On est là, on va rester là, nous.
C'est d'une poésie sans fin. Non, mais vraiment, c'est une... Moi, je suis touché, je suis ému par cette immensité.
Je bois un petit
c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément de moi.
On va faire son infiniment petit. Allez, je bois un petit million d'atomes.
Ça. Oh là là.
Un petit million d'atomes, comme ça, ça fait toujours du bien.
Et il y a encore cette immensité dans le petit. Et c'est ça qui est encore plus fou.
Ben, on est là. Là, tu as 10 puissance 14. Et là, tu as 10 puissance moins 14.
Mais donc, ça veut dire que dans mes chaussettes, c'est comme dans...
Rouge et jaune à petits pois.
Non, elles ne sont pas rouges et jaunes à petit poids. Non, c'est vrai.
C'est un hommage à Dorothée.
Oui, non, mais j'ai pas vu. T'as non, mais il y a l'immensément petit. C'est-à-dire que dans nous, il y a même aussi l'infinité d'une galaxie.
Pourquoi les chaussettes?
Mais dans mes chaussettes, il a dit.
Bah écoutez, je pense que c'est...
Parce que c'est le quatrième enregistrement de la journée et qu'il a des chaussettes.
Oui, mais justement, le quatrième enregistrement de la journée, je pense que du coup, il assouplit un peu et que tu te surveilles moins. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu considères que dans tes chaussettes, il y a plus de vie qu'ailleurs?
C'est tout à fait possible. C'est un environnement un peu en fermentation. C'est-à-dire que c'est un peu moite. Ouais. Non, il n'y a pas odorant, mais c'est moite un peu.
Il n'y a pas odorant, ça peut polluer.
C'est
ça,
une sorte ouais. de mini-océan dans chaque micron de coton de ma chaussette. C'est ça que je me dis. Non, mais il y a cet infiniment petit. C'est-à-dire vraiment, quand on y réfléchit, on se dit, waouh, il y a vraiment le... C'est quoi? C'est le quartz, c'est ça? C'est le... Quarks, je me trompe peut-être.
Les quarks.
Il y a un truc qu'il ne faut pas regarder au microscope, c'est le vinaigre.
Il est allergique en plus.
Bien.
Putain, le vinaigre, c'est chaud.
Pourquoi?
Bah, il y a des trucs vivants, quoi.
What?
Ah oui, il y a des asticots de vinaigre, c'est un monde entier.
Hein. Ah, c'est des microbes, le vinaigre, en fait? C'est pour ça que ça détarte tout?
Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est vivant, c'est vif, tu vois. Il y a une petite fête permanente, en fait, dans le vinaigre.
Waouh, je ne savais même pas.
Regardez le vinaigre.
Tout de suite, une vidéo de vinaigre.
Belle vidéo de vinaigre. Merci pour cette vidéo, les monteurs. Merci beaucoup.
Elle était chouette.
Très bonne chose. On peut mettre avec la vidéo de Requiem for a Dream et l'extrait où Alexandre Astier dit qu'on n'est jamais allé sur la Lune.
C'est plat et on n'est jamais allé sur la Lune.
Tout autre sujet, Alexandre. Dans
le cosmos.
Grâce à cette émission et grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, à savoir des gens qui veulent se mettre à écrire, des gens qui veulent travailler, qui veulent se lancer dans le métier, pas forcément artistique, mais qui veulent se lancer en fait. Ils ont une idée, ils veulent aller au bout. C'était quoi ton déclic pour que tu t'y mettes à un moment donné au début? Je sais que tu viens d'une famille de comédiens quand même, donc tu baignes un peu dans l'univers artistique, mais il y a bien eu un déclic où tu t'es dit bah, je vais m'y mettre.
Je crois que je me suis écrit ce que je voulais jouer. Pour me permettre de ne pas attendre que ça arrive dans la boîte aux lettres. Ça ne serait pas arrivé dans la boîte aux lettres. Donc,
deux ans un peu de putain, encore des prospectus. Ouais, c'est ça moi-même, j'en ai marre.
J'ai essayé d'interpréter okay, les offres à Carrefour. Leclerc, mais
ça marche pas ouf, pas ouf.
Génial. Non, mais c'est ça, c'est le fait de. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, dans les gens qui te posent la question, peut-être c'est pas tout à fait le même point de départ. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé par des gens dont le métier était de jouer. J'ai été élevé par des gens que je voyais de temps en temps s'ennuyer avec des textes qui n'étaient pas super. Comme tous les enfants veulent sauver leurs parents, je me suis dit, un jour, je leur écrirai des textes mieux que ça.
C'est vrai ça, tous les enfants veulent sauver leurs parents?
Je crois, oui. Enfin, en tout
mais
cas, ils veulent
parle,
faire quelque
ça parle,
chose.
Ça me parle, ou... quand tu me dis ça, ça me parle. C'est pour ça que je dis, ah bon, c'est une expression que je n'avais pas.
Bah, en tout cas, t'aimerais déclencher leur fierté. Et quand ils disent, je fais un texte qui me fait chier, et que plus tard, tu peux faire un texte où ils ne se font pas chier, c'est déjà un peu de fierté.
Ouais, j'avoue, ouais.
Tu gagnes un peu de fierté.
J'avoue.
Et du coup, je pense que j'ai un moteur qui est un peu particulier d'enfant d'artiste. Et du coup, je pense que mon envie d'écrire est passée par le dialogue, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, je suis tombé un peu amoureux des phénomènes de structure il y a une vingtaine d'années, où je suis allé un peu... Bah, maintenant, on les a, ces littératures, mais à l'époque, on ne les avait pas tout à fait, donc je suis allé les chercher où ils étaient. Du coup,
c'est ça que tu voulais... En priorité, ce que tu voulais, c'était écrire des dialogues que tu avais envie de jouer.
Ouais, je voulais écrire de la matière pour comédien. Je voulais écrire du...
Faire rire les gens.
De l'essence pour le moteur comédien, oui, sûr. Et oui, puis très, très amoureux d'Audiard. Pas simplement dans ce que j'entendais d'Audiard, mais dans les priorités qu'il mettait à ce que... La façon dont ça sonne passe avant la sémantique des choses et que d'un coup, les acteurs soient nourris d'un truc... qui les sortent de l'explication. Ce qui est terrible chez le comédien, c'est quand on lui donne une explication à faire. C'est quand le scénariste lui donne un tiroir à ouvrir pour qu'il explique des trucs. Mais ce qui arrive jamais dans la vie, on n'est jamais en train d'expliquer vraiment quelque chose qui nous sert. On est en train de s'identifier quand on parle. Donc Audiard avait tellement compris ça que les mecs, pour dire « passe-moi le sel », il y a 15 lines et l'autre qui fait ça, 15, c'est Shakespeare.
15 lines.
15 lines. Et Shakespeare fait ça, et Molière le fait aussi. Et c'est un, ça prouve bien qu'il y a une vérité là-dessous. Il y a un truc. Donc, moi, je passais plutôt par là, plutôt par cette matière-là. J'ai toujours trop fait parler les gens plutôt que pas assez.
T'as commencé à quel âge?
À écrire. Gratouiller 14-15 ans. Et puis après, j'ai dû écrire une première pièce, je sais pas, peut-être à 20 ans, une pièce jouée, quoi.
Ah oui, donc tu t'es carrément autorisé à le faire très très jeune, quoi.
Ouais, ouais. Alors moi, j'étais musicien, je voulais, enfin, a priori, je pensais que je ferais que ça. Et puis, j'ai dû faire un remplacement ou deux. Quand tes parents sont acteurs, c'est pas rare que tu dois faire un truc, un petit machin qui manque. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à jouer du labiche surtout, parce que ma mère mettait en scène des labiches beaucoup, dans les cafés-théâtres, elle avait amené un peu le vaudeville au café-théâtre.
C'est un peu le précurseur de ça.
Un peu. Et du coup, j'ai fini par... On a monté une, deux, et puis à un moment, les gens de ce café-théâtre, je me souviens qu'ils m'ont dit « Tu veux pas me mettre en scène une, toi, maintenant ?» Et j'ai dit « Ben si, mais peut-être je vais essayer de l'écrire aussi. »
Et surtout, ne me tutoie pas, quoi.
Voilà. Non, c'est venu plus tard, ça. Donc, voilà, à peu près. Mais pour continuer dans le conseil à ces gens qui te posent des questions
ouais. Et
qui te disent...
Apparemment, tu as la flemme de leur répondre toi-même.
Non, mais je crée cette émission pour ça.
Ouais.
J'ai une idée. Tu te souviens qu'il y en a qui disent « J'ai une idée, je voudrais écrire. » Eh bien, je crois que c'est très dangereux. Et vous deux, messieurs, vous êtes des gens qui écrivez. Je pense que vous pouvez me rejoindre là-dessus, ou alors vous l'exprimez autrement, mais je pense que l'idée, c'est le pire ennemi du débutant. Surtout quand ça le concerne. Surtout quand je raconte mes trucs, surtout quand il y a un fond de drame. J'ai vécu un truc, j'ai perdu je sais pas qui... Je crois que c'est terrible parce que c'est très important, à mon avis, de nourrir l'ingénieur qu'on est. Et l'ingénieur, il faut que ce soit un peu froid, quand même. Et on a facilement tendance à penser que sa matière à écrire est très riche parce qu'elle est vécue. Le problème, c'est qu'il y a une telle distance entre celui qui écrit et qui l'a vécu et celui qui va le voir et qui ne l'a pas vécu, que ce gouffre-là, il est vachement plus difficile à combler que si jamais on écrit quelque chose parce qu'on décide de le faire, ou une commande, ou j'en sais rien, ou un truc. Ou... Parce que là, d'un coup, si j'aime... Alors, c'est un peu plus froid, c'est vrai, mais par contre, on commence à mettre le doigt dans les outils d'écriture.
Dans le métier.
Ouais. Si vous avez une super idée, il faut s'en méfier.
Un peu comme si tu commençais à dessiner, mais que dès le début, tu as un dessin précis en tête et très personnel. Tu veux faire le portrait de quelqu'un très précisément, plutôt que d'apprendre à dessiner d'abord, quoi. En disant, je vais commencer par faire des portraits de machin, puis quand je serai prêt, peut-être que j'arriverai à transmettre ce que je vois dans ce portrait important pour moi. C'est le fait que ce soit important pour la personne, tu penses, qui est handicapant ?
Je pense que la conviction est un faux ami, en fait. Parce que si jamais tu as quelque chose qui t'habite de manière extrêmement... si de manière introspective, tu es très touché par quelque chose qui t'est arrivé... Je pense que si jamais tu veux le mettre à l'écrit, tu as plus de difficultés parce que tu crois qu'il y a des choses qui marchent toutes seules. Et en fait, il faut une expérience d'ingénieur peut-être bien supérieure quand tu t'attaques à ce genre de choses, parce que ça t'est personnel et qu'il faut que tu te prennes toi-même et que tu t'asseyes à côté de toi-même pour te dire « Ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu, et maintenant il va falloir le regarder avec l'œil du mec qui fabrique un pont ». Moi, j'aime bien J'aime bien l'analogie de l'ingénieur du pont, parce que tout le monde passe sur le pont, mais les ingénieurs du pont, ils s'arrêtent avant, ils descendent et regardent comment il est fait en dessous. Et en fait, c'est le même pont pour tout le monde. Simplement, les ingénieurs du pont peuvent regarder comment a fait le copain en disant « Ah, enfoiré, putain, c'est bien fait, ça, c'est une bonne idée, etc. » Et cette sensation-là d'ingénierie... Alors, en France, surtout, j'ai l'impression qu'on l'oppose à la poésie, on l'oppose à l'inspiration, on l'oppose à l'art. Et je crois qu'il ne faut pas faire ça. Je crois que l'art, c'est l'ingénierie au service d'un sentiment qui, lui, effectivement, est plus difficilement palpable, mais il est quand même au service de ce sentiment.
Ce fameux talent ?
Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Tu dirais quoi de Bach ? Bach, par exemple, est un ingénieur complètement fou. Un ingénieur. Et c'est un mathématicien complètement dingue. Il y a même des gens qui n'aiment pas Bach et qui se servent de cette affirmation pour dire c'est normal que j'aime pas puisque c'est un mathématicien de la musique et moi j'aime les poètes. Mais Bach a écrit des choses follement belles, juste simplement très belles, effectivement menées par le contrepoint qui est très impressionnant parce qu'il est lui-même mathématique et que voilà. Mais c'est bien les choses belles qui sont mises en scène à ce moment-là. Donc il n'y a rien à opposer, au contraire, les deux se rendent service. Comme à mon avis la spiritualité en service à la science, mais je parle de spiritualité. Pas de croyance, justement, comme tu disais.
La foi, en fait, la foi à son idée, la foi au croire au possible.
Oui, et puis.
À l'essai, surtout, l'idée, c'est un essai.
Bah, je pense que, déjà, scientifiquement, on ne peut pas tout imaginer parce que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit. Donc, il n'y a plus que l'ésotérisme ou il n'y a plus que.
Ou la SF, la SF sert beaucoup.
Ou la SF, mais la SF, c'est bien la continuité de la spiritualité. C'est une spiritualité donnée sous une forme, mais on peut avancer avec et si, comme tu disais, et si c'était vrai ça. Alors, 9 fois sur 10, ça ne le sera pas, mais il y a peut-être une dixième où oui. Et un truc très impressionnant, c'est que Étienne Klein, le boson de Higgs, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là, le boson de Higgs, il m'a dit le boson de Higgs, c'est une découverte dingue, mais en fait, c'est une vérification. On pensait qu'il était comme ça et qu'on le trouverait là, à ce moment-là, et de cette manière.
Est-ce que tu peux un peu réexpliquer le boson de Higgs? Très rapide, non.
Le boson de Higgs, c'est une particule élémentaire qui restait encore un peu fuyante à l'observation et à l'expérimentation.
Il y a un gars qui s'appelle Higgs, il a dit, a priori, si je résume, si j'ai tout bon, ce sera là, comme ça et comme ci.
D'accord, ouais. Ok.
Alors, du coup, ils ont travaillé sur l'éventualité du boson de Higgs et ils se sont dit, lors d'une expérimentation, on devrait le trouver de cette manière. Et en fait, ils ont fait l'expérimentation, ils étaient tous présents, machin, ils ont lancé le truc, je crois que c'était dans un accélérateur à particules, je ne sais plus où, et puis ils ont trouvé exactement ce à quoi ils s'attendaient. Ben,
c'est comme Einstein, c'est la relativité, les trous noirs, tout ça.
Si Einstein avait
il avait dit que les trous noirs existeraient.
Sauf que lui, il n'a pas vérifié.
Les faits, ouais. Il n'a pas vérifié, puis ça a été vérifié, je ne sais plus ce que c'était. Les ondes gravitationnelles, je pense qu'il y a une base d'Einstein, puis il y avait l'effet de double lentille, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Quelle approche d'un astre, si la masse, machin. Donc, on devrait, à un moment, on verra bien deux fois la lumière.
Ouais, ouais, c'est ça.
Je crois que ça partait d'un truc d'Einstein aussi.
Donc, en fait, c'est des artistes, clairement. C'est le même travail que les artistes, les scientifiques.
En tout cas, à un moment, il faut qu'ils croient dans le vide.
Qu'ils croient dans le vide, on dit, bon, on y va. Moi, j'ai l'impression que c'est par là. C'est Christophe Colomb, quoi. J'ai l'impression que c'est par là.
Einstein, c'est un bon exemple qui est souvent pris par Étienne Klein de l'imagination au service de la science parce qu'à un moment, c'est des exercices de pensée, quoi. Il dit, mais si j'étais assis sur un photon, et que j'allume une lampe torche, qu'est-ce qui se passe? Et c'est en partant de ça, alors que c'est pas du tout possible, mais c'est en partant d'une fiction, d'un exercice de pensée, qui répond à sa propre question en disant est-ce que je peux chevaucher un photon, etc. J'ai pas toutes les réponses, parce que je suis pas Einstein, mais il part de ça.
La SF, c'est pas notre désir, comme on disait les gens, Elon Musk qui va aller sur Mars et tout, qui est un peu le prolongement du gars dans son village préhistorique qui dit bah, je vais aller derrière la forêt, je vais y aller, puis qu'on a retrouvé le cadavre, on a retrouvé les ossements d'un mec dans le désert comme ça. C'est une histoire vraie, on a retrouvé il y avait ce désir d'aller voir ailleurs, ce qui est un peu ancré dans notre humain. Est-ce que la SF, c'est pas un peu notre. Genre, on peut dire on est allé sur Tatooine, les gars?
Ouais.
On est allé sur Tatooine. Moi, j'ai les images. Il y a des gars, ils sont allés sur Tatooine, les gars. Ils ont vu comment c'était.
Ouais.
Et tout.
Après,
on y est allé.
Pour moi, c'est au-delà des mondes imaginaires. Pour moi, c'est pas le plus intéressant, je trouve, dans la SF. Ce qui est cool, c'est quand t'imagines une science. Enfin, t'imagines une technologie. Tu vois, il y a des trucs de SF où le gars, il pousse le truc, il dit imagine, on peut inverser le temps. Puis après, il essaie d'imaginer tout ce qui se passe quand t'inverse le temps. Parce que tout d'un coup, il y a possible qu'un physicien, à un moment, dise bah, c'est pas con. J'avais pas pensé à ce truc-là. Parce que le gars, lui, ce qu'il veut, c'est des rebondissements. Imagine, on peut se dédoubler. Qu'est-ce qui se passerait, tu vois?
Mais c'est pas le cas des métavers en ce moment.
À fond.
Ouais, je me demande si c'est ça pas vient d'abord bien en science-fiction ouais, avant si, d'être si. En.
Si, ça vient de la science-fiction.
Les multivers et les.
Bah le prochain step du Marvel Cinematic Universe, c'est les multivers. C'est le prochain chapitre qu'ils vont ouvrir là. Ils sont en train de tout préparer pour dire il y aura plein de trucs parallèles.
Mais les multivers dans la fiction, c'est intéressant parce que du coup c'est et si tel personnage il était plus grand, plus petit, une femme, un homme, tu vois. Et ce qui est intéressant dans la physique, dans les recherches en ce moment dans la physique quantique, c'est que ça pourrait répondre à une question de putain pourquoi ce truc est là et pas là et pas là. En fait, c'est parce qu'il est partout mais pas dans les mêmes. En fait, tu crées un embranchement à chaque fois que quand tu check. Ta particule, en vérité, elle est partie dans tous les univers possibles et toi, tu es juste dans l'univers où elle est là. Mais tous les univers où elle est ailleurs existent. Et dans ce cas-là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'univers. Ça en fait pas mal. Ça en fait 2-3 quand même.
Alors, j'ai une bonne phrase d'Einstein pour la relativité.
J'ai l'impression qu'on fume des manches.
J'ai jamais essayé, je suis désolé. Vous voulez qu'on parle de ça?
J'ai jamais fumé de drogue.
Comme tu veux.
Non, j'ai jamais fumé tout court, en fait.
Mais t'as déjà pris des drogues?
Non, mais j'ai déjà rien. J'ai jamais fait ce geste-là. Donc, j'ai jamais pris de drogue non plus.
T'as jamais été dans un état.
J'ai jamais fumé de cigarette non plus. Si, j'ai été dans un état.
L'alcool quand même.
Avant une opération. Bing.
La morphine?
Non, un autre truc. Je sais plus ce que c'était.
Le démérol.
C'est quoi? C'est une peur de perdre le contrôle?
C'était cool.
Parce que Kian est un peu pareil aussi.
Non, j'aime pas ça.
J'aime, ah oui.
Bah comment tu sais si t'as jamais essayé?
Non, mais j'aime pas le. J'aime pas. J'étais musicien et j'avais 14 ans quand les autres en avaient 25, donc je jouais avec des mecs qui arrivaient tartinés sur scène. J'ai constaté que ils pensaient jouer très très bien, mais
que pour eux. Ils jouaient.
C'était
Dieu, mais que pour eux-mêmes.
C'était pas si génial que ça.
Ces fameux trucs des gars qui bombardent un peu des joints la nuit. Qu'ils écrivent des trucs ou qu'ils font des morceaux sur leur ordi. Ouais. Le matin, ils se réveillent, ils écoutent. Enfin, le matin à 14h, ils se réveillent et du coup, tout est nul.
Ouais, puis il y a un côté aussi track.
Ouais.
Il y a les traqueux qui tabassent avant de jouer. Mais bon, ouais, ils sont un peu seul au monde, quoi. Non, j'aime pas ça. J'aime pas la cigarette. Le tabac, je déteste le tabac sous toutes ses formes.
J'étais pas que sur la cigarette. Ce qui m'intéressait,
oui, mais en
fait,
moi, alors déjà, le fait de fumer m'interdit.
Boire, tu bois un petit peu par contre. Non, donc tu gardes le contrôle quand même.
Je sais pas si je garde le contrôle volontairement, mais j'aime pas beaucoup de trucs d'adultes en fait, quoi. Finalement, j'aime pas l'alcool.
Mais c'est un truc d'ado, on va dire.
J'aime pas le goût, donc.
Mais si là j'ai un bouton, j'appuie dessus et t'es complètement ivre ou défoncé ou je ne sais quoi, t'as des hallucinations, t'aimerais les connaître au-delà du fait d'ingérer un produit? Où tu te dirais, ouf, ça me plaît pas, j'aime bien savoir où je suis, quand je suis et pourquoi j'y suis.
C'est un et si.
J'étais à Prague et je tournais un film à Prague et j'avais des camarades que je ne nommerai pas ici parce que ce sont des trous du cul, avec qui je jouais. Et ils ont dit, bon, ce soir, t'arrêtes de nous casser les pieds parce que je ne vais pas au pot des films. Mais je ne vais même pas au pot des miens, en fait. Mais ce soir, tu picoles. Et du coup, ils ont dit, écoute, on t'amène des trucs, tu bois tout ce qu'on t'amène. Et tu discutes pas. Donc, ils m'ont amené des trucs de toute la nuit, toutes les couleurs. Voilà. Effectivement, je suis rentré à mon appart à Prague un peu comme ça. Je crois qu'ils voulaient vraiment me faire tomber. Donc, j'ai découvert que je tombais pas facilement. Ça doit être héréditaire, peut-être, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai eu un mal de crâne le lendemain matin. Puis, ça m'intéresse pas trop, c'est vrai.
L'ivresse, c'était pas. Ça t'a pas. Tu t'es pas dit, putain, l'ivresse, c'est pas mal, il y a un truc.
Cool. Non, si j'avais pas d'enfant, je ferais des trucs plus cool que ça. Peut-être je mangerais de l'opium. Je pense que je mangerais de l'opium si je devais faire quelque chose.
Ça se mange, de l'opium?
Ouais.
Je savais même pas.
Je mangerais de l'opium ou je le boirais, ça s'appelle du laudanum. Mais c'est plus tellement comme ça qu'on fait, évidemment. Mais c'est. Peut-être j'aimerais, mais je crois que c'est un truc, à mon avis, qui serait solitaire, pas tout un truc de fête. Ou de
machin. Tu serais sur un petit mont, une petite montagne.
Ouais, ou en tout cas dans la solitude de quelque chose, et puis voir ce qui se passe. De manière, ça peut être marrant, j'ai rien contre ça, mais j'ai pas de mondanité, je sors ouais. pas, je fais pas de fiesta. Donc
l'occasion ne s'est pas présentée. Mais c'est si un C4, t'es au Tibet, à la cool, en haut d'une petite montagne, et qu'on te dit, bois cette tisane, tu vas voir.
Ou mange ce petit machin.
Les nuages vont bouger. Il y a moyen que tu essayes.
Ouais. Si je suis sûr de revenir, hein, j'ai des enfants, il faut quand même que je... pas partir tout de suite, quoi. Ou devenir zinzin.
Ah non, il y a quand même une peur de la drogue. Est-ce que tu es un peu drogophobe?
Moi, ça me fait peur. J'ai pareil, dans la même situation.
C'est pas vraiment une histoire de peur. C'est que
rester chez père...
Déjà, je me suis découvert assez agressif quand on s'adresse à moi et qu'on n'est pas dans son état normal. Je trouve ça très impoli, en fait. Moi, je m'adresse pas aux gens quand je suis pas dans mon état normal. Je sais ce que je dis, je peux le répéter le lendemain, je peux l'assumer. Ça m'agace c'est vrai qu'il y a un agacement, mais après, c'est un agacement
quand quelqu'un arrive complètement bourré ou coqué ouais. ou n'importe quoi et qui commence à se comporter d'une façon... Genre
puis surtout dans le travail. Je ne travaille absolument pas avec des gens qui sont comme ça. Tous les plateaux sont... J'en clean parce que j'aime pas ça, vraiment. Quoi. Puis il y en a dans les négociations, dans les trucs, il y en a... avant des séances, c'est pareil, c'est un peu le trac. Hein. C'est-à-dire que y a des gens qui affrontaient quelqu'un comme ça, épaule à épaule, ils ne savent pas trop faire. Quoi. Donc, paf, paf, paf. Et puis après, tu as affaire à un mec qui part dans tous les sens. Et je ne trouve pas ça poli, c'est vrai. Je ne trouve pas ça très poli.
C'est un peu pareil. Hein.
On est complètement pareil.
Celui-là, vers 2-3 heures du mat, il n'y a plus moyen qu'on sorte. Quoi, parce qu'il dit non, il y a des gens qui vont me reconnaître et ils vont être bourrés.
Ah ben oui, mais parce que le phénomène de timidité s'estompe, du coup. Moi, en pleine journée, les gens, ils n'osent pas trop, tu vois. Ou alors, gentiment, ils viennent, je peux avoir une photo, un truc, je la fais, aucun problème. Mais alors, le coup du genre, j'ai 10 verres dans la tronche, ah putain, je voulais te dire, j'adore ce que tu fais, non, c'est fou.
J'aime pas ce que tu fais. Mais j'aimerais bien une photo avec toi. Ça, c'est... Parce qu'il n'y a pas que la timidité qui s'estompe, il y a tout. Il y a le code de savoir-vivre, il y a tout qui s'estompe. Et moi, ce n'est pas ça, ce n'est pas la timidité. Le gars, il est timide, il a peur et tout. Il n'y a pas de galère, même gens timides.
Non, c'est l'inverse de la timidité, justement. C'est que le mec bourré qui arrive, qui dit hey, tiens, si tu te coupes, tu es en train de parler avec quelqu'un. Ouais. Ça nous est déjà arrivé, on parle tous les deux.
Bien sûr.
On sort du spectacle, tu vois. C'était un mec vraiment qui chancelle et vraiment il coupe la parole à tout le monde. Lui.
Bah, c'est pas lui qui dit je sais pas la télé. Bon, et vos conneries. Mais c'est bien ce que tu fais. J'aime bien. Ça, c'est champion.
Je rigole pas beaucoup. Hein.
Non.
Bah, moi, je suis dur. C'est le mec le plus dur de la Terre.
Et on est d'accord tous. Michel Lèvre. Les grands. T'as remarqué qu'il y a des mecs qui cherchent leur verre en parlant. Essaye, t'as un verre? T'as un verre?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu commences là.
Avec la paille, tu dis?
Les gens qui cherchent
leur paille. Ouais. Ouais. Pas beaucoup, tu vois, t'as 2 centimes.
Il n'a pas exactement, ouais. Je sens qu'il est légèrement... Il y a un problème, il n'a pas bien ajusté. Tout est...
Il est un peu décalé. Un peu décalé. Non, mais c'est vrai que
il y a un calibrage à refaire.
Non, pas calibré, je m'amuse plus parce que c'est vers 2-3 heures du matin, c'est pas, je m'en fous. Hein, moi, je suis un peu comme toi, je suis casanier, j'aime pas sortir de toute façon. Je sortais pas avant d'avoir eu un accès à la notoriété et je sors toujours pas en fait. J'aime bien être chez moi comme toi. Moi, je suis pas trop fan des fêtes. J'y vais parce que voilà, c'est de la politesse sociale justement pour éviter. D'être mal compris, tu vois, parce que je veux pas être mal compris. Mais je rentre chez moi. Mais quand je commence à sortir, enfin, on était à Nantes, tu te rappelles, une fois, on s'est retrouvé dans une soirée après le spectacle, vers 1h, jusqu'à 11h, minuit, tout va bien. Une heure
t'avais joué?
Ouais, j'avais joué juste à côté. Mais c'était une soirée étudiante, il y avait des trucs, c'était cool, quoi. Il y avait pas mon public. Et il y avait des jeunes, et à un moment donné, je sens qu'il y a des téléphones qui commencent à me prendre de loin, ça me prend en photo et tout. C'est pas quelque chose que je kiffe trop, parce que je trouve ça un peu animal, tu vois, c'est un peu. Si je suis un animal, hein, mais je suis un peu un zèbre, il y a un zèbre. Et à un moment donné, tu sens qu'il y en a un qui vient t'aborder, et du coup, il y en a d'autres qui viennent t'aborder, ils disent bah, c'est maintenant. Et en fait, ils ne veulent pas te déranger, du coup, il y a une sorte ça s'agglutine. Et à un moment donné, ça devient plus très agréable parce que ça te poustillonne. Enfin, moi, je suis un peu tu vois, germophobe, tout ça, ça poustillonne, c'est machin, c'est totalement incontrôlé. Et des fois, il y a des gens qui disent des choses très vexantes, mais très, très vexantes. Et ils se disent, et en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est hyper humiliant, c'est pour toi. Ouais, mais bon, vas-y, c'est bon, quand même, te la raconte pas. Hein. C'est pas parce que je fais une photo que ça y est, t'es peut-être une merde. Hein, tu vois, wow. Moi, je voulais juste faire une photo avec toi, tranquille, cool. J'ai pas de... Je voulais que ce soit une belle expérience, pas une expérience où je me sens moins bien, du coup.
Oui, puis en plus, il y en a pas mal, c'est leur façon d'être cool devant les autres.
C'est ça, parce qu'il se dit.
C'est le mec de bref. Moi, il me fait pas peur, je vais lui dire.
Il y a une fois dans la rue, je mangeais à une table avec ma fille, je crois, et une table dans la rue, enfin, terrasse, quoi. Et un mec qui se pointe vers moi, il fait toi là. Toi, t'es un enculé, toi. Donc, tu sais, moi, italienne, je commence à me dire allez, vas-y, top, une jambe comme ça pour me relever. Parce qu'on ne sait pas, le mec avait l'air un petit peu, comme on pourrait dire,
hostile.
Non, mais pas dans ce. Hostile, pas sain d'esprit. Hostile. Pas savoir tout à fait ce qu'il fait.
Un peu perturbé, un peu...
Toi, t'es un enculé, alors je m'apprête à, tu sais... Hop, hop. Et puis, la phrase d'après, c'était « Parce que toi, t'es un bon, toi. » Alors, attendez, ambivalence. Ambivalence de la personne.
Je m'appelle Jean-Claude Chaufroid. J'adore faire des chauffroids.
Et après, il m'a dit tout un tas de compliments très gentils, mais comme insultants.
Ah oui,
t'es un enfoiré.
T'es un enculé, hein.
Tu m'as fait marrer.
Tu te connais pas, lui, ouais, c'est ça.
Enfoiré, tu m'as fait marrer.
Ça, c'est bien fini.
Ça va. Vaut mieux ça que l'inverse.
C'est ça.
Que j'adore ce que vous...
Oh, mais voyons, c'est une jugulaire, c'est pas fait pour être percé, voyons.
Le mec a le temps de dire ça.
Oh non, ma jugulaire.
C'est une jugulaire. Tu vois, tu captes moins bien. Bon. Ah,
pas sous un tunnel, la jugulaire.
Mais c'est vrai que t'as quelque chose d'assez imposant, je trouve. T'as un truc... même moi quand je t'écris ou un truc comme ça, je me dis, j'ai pas envie de faire chier, quoi. J'ai pas envie de.
Comme quoi ça marche.
Bah ouais, ça marche de ouf. C'est, tu t'es créé une bulle, quoi.
Parce que toi, tu crois que les gens qui t'écrivent, ils disent, on va le faire chier volontiers.
Non, moi, les gens, ils sont assez cool avec moi. Enfin, j'ai pas l'impression.
Les gens qui t'écrivent. Non, je pense pas que c'est les gens qui t'écrivent, les gens qui t'arrêtent dans la rue. Moi, je pense que je suis plus dans ton camp. C'est un truc que j'ai compris. Parce que, en fait, les gens se disent, lui, c'est le mec sympa, lui. Lui, c'est le. Tu vois.
Mais ça me fait plaisir à chaque fois. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois.
Non, mais là, les gars. Alors que toi, quand tu parles. Les gars, vous payez bref. Vous payez bref. Non, mais vous payez bref.
Moi, les gens me laissent tranquille. Enfin, ils me connaissent beaucoup moins. Mais ceux qui me connaissent me laissent tranquille.
Bref, être bref. Monsieur Bref.
Voilà, monsieur Bref, c'est un mec. T'es le pote de tout le monde.
Ouais, mais ça me plaît en plus.
Voilà. Moi, déjà, je suis connu par un mec ronchon.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai qu'il est ronchon.
C'est vrai qu'il est un peu rouge.
C'est un truc qui m'a choqué chez Semoun, moi. Semoun, est-ce qu'il a fait beaucoup de rôles comme ça, très pote, très... Mais alors, la façon dont on l'aborde dans la rue, je trouve ça...
C'est fou, hein ?
Ouf !
Ouais, j'ai déjà vu, ouais. J'ai
ouais,
vu,
déjà vu.
Ouais, mais c'est vraiment, c'est genre... Ouais, Eddie ! Oh, oh
alors, bah, viens, viens ! Oh, viens ! Bah, la main dans le joint. En plus, il n'est pas très grand, moi non plus, mais je veux dire, il est, ça aide pas. Et
lui, ça se voit. Il n'est pas très grand, mais lui, ça se voit. Vous n'êtes pas très grands tous les deux, mais lui, ça se voit.
Je te laisse avec ça.
Mais quoi, tu m'abandonnes?
Mais c'est vrai qu'il est.
Tu refuses une proposition? Toi, ton esprit de troupe?
Il est un peu plus frêle. Il est un peu plus frêle. Et c'est tout.
Bon, j'ai le droit de le dire, je crois.
Oui, bon, oui, en tout cas, je trouve les gens extrêmement discourtois avec lui. Vraiment. Et il est exemplaire hein, à chaque fois. Il sourit, il est gentil, tout machin. Mais je le trouve assailli à la mode pote, quoi. C'est bizarre. Et moi, je sais pas, non, ça fait pas ça.
T'as pas la pression d'être Alexandre Astier? Quand tu te dis, putain, y a des moments où t'as juste envie de déconner, faire une blague un peu nulle, un peu pétée, dans une interview ou quoi que ce soit, t'en bats les couilles. Mais t'es quand même t'es devenu Alexandre Astier. Parce qu'il y a cette personne, en fait, je crois qu'il y a t'as une vraie aura, en fait, je trouve. Tu vois, t'as un vrai truc, genre, dû à ton personnage ronchon, dû à tes positions qui sont surtout des avis qui sont assez, je trouve, assez intelligents, tu vois, assez réfléchis. T'as une manière un peu de t'exprimer qui est assez
c'est
admirable.
C'est surtout l'assurance.
Ouais, t'as une assurance de toi. Là, t'as les bras croisés. Là, on sent que t'es un expert. Là, vous êtes un expert. Bonjour,
on
vous êtes
dit,
expert.
Il juge ma question. Tu vois, tu fais la tête de quelqu'un qui dit, va au bout de ta question, on va voir déjà ce qu'elle vaut, ta question.
Tu vois, alors que moi, je te vois, t'es très sympa, t'es très déconneur. À chaque fois qu'on s'est rencontrés, à chaque fois qu'on s'est vu, c'était de la déconnade. On trouvait des trucs un peu, des conneries à dire. T'es beaucoup plus bon vivant que tu m'y parais. Est-ce que t'as pas l'impression, des fois, t'es sous un carcan? T'as pu ressentir ce carcan? Je suis Alexandre Astier. Je peux pas aller dans ce film, faire un guest là-dedans parce que je suis Alexandre Astier.
Bon, alors, notoriété. C'est un chapitre notoriété que vous aurez là. Ouais, d'accord.
On était dans l'espace. On peut ouvrir.
Alors, vous conduisez?
Oui.
Une bagnole? Non.
Oui.
Bon. Si jamais t'es au feu rouge et que t'as une crotte de nez, un truc comme ça. Hein.
C'est une maladie, là. Là, ouais. C'est clairement, c'est de la
folie. Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas été faire. Enfin, j'en sais rien.
Mais... Ok.
Une sacrée crotte de nez.
Du coup, il y a deux solutions. Normalement, si tu es au feu rouge et que tu es anonyme et que tu te sors une crotte de nez de ton pif, normalement, tu ressembles à n'importe quel mec qui se sort une crotte de nez de son pif au feu rouge. Tu as l'air très con, soit, mais tu n'as pas l'air plus con. Si jamais t'es Alexandre Astier, Kian Kojandi, etc., et que tu te sors une crotte de nez au feu rouge, Alexandre Astier est un dégueulasse. Kian Kojandi est un gros dégueu. Voilà. Et ça...
C'est vrai, c'est un événement, c'est un événement.
J'aime bien l'idée qu'il fallait avoir une voiture pour le...
Mais parce que...
Parce que c'est un curage de nez, c'est très classique. C'est un classique
en voiture.
Non, excusez-moi, c'était plus intelligent que ça. Il y a plus de gens qui se curent le nez dans leur
j'ai
voiture
pas dit que c'était con.
Au feu rouge. Pourquoi? Parce qu'ils oublient qu'il y a d'autres voitures. Voilà. Donc, moi, ça m'est arrivé en tant que conducteur de voir des gens qui s'enlèvent une crotte de nez à droite ou à gauche.
Je disais, la chance, ils ne sont pas Alexandre Astier. J'aimerais tellement être à leur place. Moi, et cette crotte de nez qui me hante.
C'est
depuis...
ça qui me manque.
Ça fait 20 minutes que j'ai cette putain de crotte de nez. J'attends d'être dans un tunnel.
Et chez lui, il a installé une fausse route avec des faux feux. Comme ça, il peut se gratter le nez tranquille.
Ils font semblant de ne pas le connaître.
C'est vrai. Donc la vie change.
Le oui, mec qui a découvert Jésus.
Ouais.
T'aurais dû. Quand il a dit je n'ai pas la télé, t'aurais dû faire. Oh putain, quel
kiff! Ah,
tu sauras jamais que c'est Alexandre Astier, le gros
peut-être
dégueulasse.
J'aurais pu lui rendre le fascicule avec la crotte de nez dessus.
On fait comme ça dans ma religion parce que j'ai rencontré ce blurp de la crotte de nez.
On le met au milieu du fascicule et on ferme
et on le rend à la personne.
Donc, est-ce que je suis Alexandre Astier ? J'en sais rien.
Mais même en termes de choix artistique, c'est-à-dire en termes de choix, tu mets un peu la pression des fois ?
Alors, moi, j'ai l'impression que j'ai 2-3 trucs à faire. Donc, la suite de ce que j'ai déjà entrepris, quelques nouvelles choses. Et du coup, je pense que j'aurais pas le temps de le finir. Il y aurait des trucs, ça aura pas lieu, je vais mourir avant, c'est sûr. Donc déjà, a priori...
Que techniquement, t'as un agenda jusqu'à la fin des temps pour toi. De tes temps.
À la fin de mes temps, oui. Qui sont bien plus modestes que la fin des temps, on est d'accord.
Hein. On est clairement dans la modestie.
Pour moi, c'est la fin des temps.
Ah mec, c'est ouf. C'est pas possible.
La fin de ton temps, c'est la fin des temps.
Bon, c'est pas tout de suite, tout de suite.
Parce que d'ici là, t'auras créé ta secte. On est d'accord que t'as quand même un truc de gourou. T'as un truc de gourou quand même.
Ça me plairait bien.
Il y a moyen que tu partes pas tout seul.
Et moi, à mon avis, je pense que vous devriez y réfléchir. On devrait faire un truc avec ça.
Donc, on fasse une secte ?
Franchement, imagine, on fait une secte.
Vous avez eu la gueule de Dimambro ? Vous le trouvez plus crédible que nous ?
C'est
le mec du temple solaire ?
Ah oui.
Le mec avec les lunettes fumées jusqu'à maintenant, ah ouais, avec l'accent de Marseille. Le mec, il a poussé des gars au suicide, au machin. Tout le monde a filé sa carte bleue, son truc. Vous n'allez pas me dire qu'on a moins de charisme que Dimambro.
Ouais, peut-être qu'on est plus sympa, on n'a pas trop envie de pousser les gens au suicide.
C'est parce qu'on est sympa qu'on va attirer la confiance des gens et qu'on peut tirer les cartes bleues. Ouais, mais... Et le reste. C'est parce qu'on est insoupçonnable.
Bah ouais, de ouf.
Il faut qu'il y en ait un de nous trois qu'on voit presque jamais.
Ouais, c'est moi, hein.
Il faut qu'il arrive au dernier moment, c'est-à-dire que nous, on travaille les gens.
Quand il va arriver, il va arriver. Ouais. Les gens sont montés.
Par contre, vous êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à le voir, sinon il serait là.
Mais enfin, par contre, c'est pas les suicides, c'est massage pour tout le monde. C'est ça le vrai délire. C'est le massage solaire. Tu vois, ce côté, genre, regardez, c'est un massage, ça va être la connexion.
On leur rend tout. On fait tout comme une secte.
Alors il faut commencer.
Mais au dernier moment, on leur rend leur fric, on leur rend tout.
Alors il faut commencer avec un huissier qui soit là.
On a tout placé. On a tout placé pour vous.
Les gars, faites un Ponzi directement. Tu prends à un, tu donnes à l'autre, tu doubles, et c'est le dernier qui se fait avoir.
T'imagines, tu fais une secte et tout, ils doivent se débarrasser de tous leurs biens matériels, mais en fait, tu fais tout fructifier.
Ouais, tu dis, putain.
Les bitcoins et tout. Et au bout de 10 ans, tu dis, il arrive. Et en fait, c'est juste un gars qui rend l'argent. Voilà, super.
Oui, mais ça veut dire que tu t'engages à ce qu'ils ne perdent pas vraiment leur boulot, parce que ces mecs vont démissionner. Il faut s'arranger avec leur employeur pour dire il va démissionner parce qu'il est dans un truc très temporaire avec nous, mais en fait, on va vous le rendre.
On les fait travailler, on les fait bosser. C'est bon, on a des boîtes,
oui, on les fait bosser.
Des boîtes de prod.
On les fait bosser.
Hop.
Et ils font tous du cinéma maintenant. Ouais.
Ouais. Bon, allez, on fait pas une secte.
Non, on fait pas une secte.
Mais on serait bon, on peut se dire ça.
Bah ouais.
On peut se dire on serait bon.
Tu sais que moi, j'essaye de pas faire une secte.
T'as
dit. Je sens trop que je suis capable de faire une secte.
Il peut convaincre facilement.
Est-ce que les autres sectes te fascinent ? Enfin, le mécanisme sectaire, je veux dire.
Quand je vois les autres sectes, je me dis, ça n'a pas l'air très compliqué.
Non, ça n'a pas l'air super compliqué.
Franchement, je pourrais le faire. C'est pas si fou, en fait. Le truc, c'est que le gars est suffisamment con et méchant pour l'avoir fait. Ou même pas fou pour l'avoir fait, tu vois.
Mais Raël, il n'est pas fou.
Ça n'a pas l'air compliqué, le délire.
Bon, je crois pas qu'il soit fou.
Tu crois qu'il est au courant ? Il est totalement lucide.
Ouais.
Tu sais, c'est le même principe que les scams, là. Tu sais, quand tu reçois le truc de Nigeria, je sais pas quoi, Niger, tu sais, où on se fout de leur gueule parce qu'on dit, ouais, il y a plein de fautes dans les mails.
Ouais.
Ils les font trop mal, leurs mails. Mais non, mais ils le font exprès parce que leur but, c'est que ce soit que ceux qui repèrent pas les fautes.
Si tu réponds, c'est que t'es une bonne poire.
Donc je me dis, c'est quand même assez facile parce que quelque part, tu mets un grand filet où tu dis, j'ai rencontré Sblurgs, il m'a dit un truc. Et il suffit qu'il en reste 5. T'en as déjà 5 dans ta secte. C'est toi, tu vois, je serais limite étonné. Donc, je t'ai dit ce blur, et tu crois qu'il...
Ouais,
tu crois.
Ou alors...
Et après, il se contamine.
Ou alors, tout le monde dans les sectes sait que c'est n'importe quoi, mais leur vie est quand même meilleure là que dehors.
Tu viens de décrire toutes les religions. Puisque les religions sont des sectes qu'on a réussi.
Ah, franchement, il n'y a pas un peu de ça. Déjà, premièrement, il y a des passages de grade dans les sectes. Tu montes en grade. T'as le droit à de plus en plus de trucs et tu fous de plus en plus rien.
C'est vrai que plus le monde est pourri à côté, plus c'est facile de faire une secte parce qu'il suffit d'être à peu près sympa et de dire t'inquiète pas, ça va aller pour que la personne dise putain, c'est beaucoup moins violent.
Ce que vous appelez, c'est un cadre, les gars. Vous appelez ça, c'est un cadre. C'est juste un cadre.
Mettons que t'aimes pas faire la lessive. Tu dis on va accueillir deux nouveaux qui vont faire ma lessive. Ok. Et à ces deux nouveaux, tu leur dis les gars, vous êtes vraiment des mecs bien. Et ça sortira pas d'ici. Vous allez trouver chacun deux personnes pour vous faire vos lessives. Et vous allez prendre du grade. Et moi aussi. C'est un Ponzi humain, en fait.
Ah ouais.
Je crois que c'est que basé là-dessus, en fait.
Après, les
gars, c'est basé sur le fait que les mecs
nickel.
Font pas...
Ah, c'est la secte nickel. Ouais, c'est vraiment ta nickel, quoi.
Ok.
qui est tout un système de machines à laver, d'eau, d'irrigation, du coup.
Oui, il faut un petit investissement.
Oui, quand même, il y a un petit truc de base. Quoi.
Bon, allez, venez, on le fait. On arrête cette émission, on fait une secte.
Le truc sur la lessive spécifique, non. Pas...
Non, on peut faire sur autre chose. Moi, j'étais plus sur la vaisselle. Mais...
En tout cas, on allège les gens de leurs tâches ménagères.
Ouais.
Au fur et à mesure qu'ils montent en grade, ils n'ont plus rien à foutre.
Ah, mais non, mais c'est le capitalisme, ça existe déjà.
Ah oui, très juste.
Ah, c'est bon, merde.
Oui, c'est vrai.
Mais est-ce qu'il y a le ruissellement, du coup, ou pas?
Alors, attends, ruissellement,
ça ruisselle
la richesse?
Bah, ouais.
Bah oui, bien sûr que ça ruisselle, puisque tu montes en grade.
Ça ruisselle de manière mesurée.
Oui.
C'est connu.
T'es en bas.
C'est toi qui as le robinet.
Tu fais les Tupperware, quoi.
Voilà, absolument.
Tu fais les petites popotes, d'accord. En fait, c'est juste un cadre de vie. C'est un cadre de vie que tu donnes en disant, t'inquiète, on s'occupe de tout. Et t'inquiète, on s'occupe
t'inquiète,
de tout.
Sera le nom de la secte.
T'inquiète.
Alors quand même...
Les t'inquiète. C'est comme ça qu'on saluera. T'inquiète.
Et il faut que les gens qui viennent aient été désignés par une force...
Est-ce qu'on pourrait pas se servir de nos séries?
Il y a pas mal de sectes où le mec, tiens, on
leur
fait faire... Ah.
Parce que là, il y a quand même déjà...
Ah, je pense que c'est bien si c'est pseudo-science un peu, pour vraiment aller au bout d'un truc, tu vois, qu'à la base, on n'est pas d'accord.
Ah bah alors, il y en a, donc on leur fait faire des pseudo-tests, des machins comme ça, et puis, d'un coup, le mec fait « Waouh !» Quand je reviens, je vais voir mon supérieur.
Ouais. Moi, je pense l'ADN, c'est pas mal. On partirait de l'ADN, c'est des trucs là maintenant où tu testes ta salive et tout. De dire, écoute, moi, j'ai reçu un message pseudo-scientifique d'une force qui me dit que les gens qui ont tel truc dans le génome.
Je te montre, tu l'as.
Voilà. Tu l'as. De temps en temps, il y en a un qui l'a pas, tu vois. Il se fait virer devant tout le monde. Il l'a pas, regardez-le, il l'a pas.
C'est comme
de la chance de l'avoir.
Mais c'est comme dans les bontos. C'est le mec, après il revient un mois après, il refait le tour, ouais. Et les gens, c'est un faux client.
Il revient quand tu l'auras, tu vois.
Ouais.
Alors que c'est l'ADN.
Tu peux l'avoir au final.
Ouais.
Ça, c'est pas con.
Parce que du coup, il y a un truc de « Ah ouais, attends, quand même,
il faut mettre un...
c'est le mec de l'exoconférence, il dit pas que des conneries, ouais. Il connaît Étienne Klein. »
Mettons,
il faut Étienne, oui. Hein. Il faut Étienne en premier secrétaire, hein. Tu lui proposes. Tu dis Étienne, premier secrétaire.
Ah, s'il est là, on tape
ministre
fort.
De la Santé de notre...
On tape super fort, si Étienne.
Ouf, t'imagines la responsabilité qu'on a. Imagine, c'est chambé.
Il renomme les gens, mais que en anagramme.
C'est chambé.
Il fait les anagrammes des noms des gens. Tu vois. Comment tu t'appelles, Thierry
C'est lui qui devrait arriver très tard. Ouais. Quand les gens ils rencontrent le super chef, c'est Étienne Klein.
Et nous, on est là, mais pff, il va dire un truc de ouf. Il va arriver à faire « J'ai faim ». Et là, on va faire « Putain,
putain, c'était ça.
Il a faim, il a faim. »
De savoir.
Il a faim de savoir.
Tu bosses beaucoup en dernière minute.
Ouais.
T'étais un mauvais élève quand t'étais gamin. Faudrait que tu bosses le dimanche soir après sa cartoon parce que t'es obligé de faire tes devoirs. Que ma joie demeure.
Après Audiard, lui, regardez Audiard.
Que ma joie demeure, ça t'a coûté un petit pépin de santé. Quand je dis pépin, c'est
ouais.
Citronnade. Tu t'es vraiment trois jours avant, t'étais encore dans le texte, t'étais encore dans le j'écris.
Ouais,
à la Camelot aussi, où t'étais aussi. La nuit même, l'exo. Tu te mets vraiment en difficulté, même le film, on a dû t'isoler, quoi. On a dû te.
Bah, disons que le film, je l'ai écrit avant parce que, quand même, le film, il faut le financer, donc il faut donner les scripts. Mais je l'ai quand même réécrit chaque veille de tournage.
Mais même au moment donné, tu devais rendre ton script, on t'a mis dans une cabane et on t'a dit écrit, non, ça va?
Je veux pas ça.
Non?
Non, je fais tout chez moi. Si c'est ma cabane, en fait.
Ouais.
Bon, il y a du monde dedans, mais c'est...
Ouais. Mais c'est vrai que tu faisais, par exemple, les spectacles à la dernière minute. Et ça, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment l'inverse de notre procédé de création.
Donc, on écrit à la dernière minute?
Non, lui, il écrit à la dernière minute. Nous, on écrit, c'est l'inverse. Nous, on écrit. Moi, j'écris pendant un an. Et je teste pendant un an. J'arrive sur scène, je suis prêt.
Ouais, l'énergie de la dernière minute, c'est parce que tu te rends plus compte. Mais en fait,
quand on écrit des textes,
allez, ce soir, Comedy Club, réserve, tu vas faire 10 minutes, mais que l'après-midi, on est là.
Alors, tu dis, c'est vrai qu'on est un peu.
Fais quoi ce soir devant
deux. C'est le vaisseau amiral de la dernière minute, excuse-moi.
Devant 150 personnes. Je m'excuse, ça ressemble beaucoup quand même, parce qu'en plus, toi, tu arrives tout seul à Walp sur scène. Non, tu te rends pas compte. Quand on est l'après-midi en train de dire qu'est-ce que tu vas dire ce soir sur scène et qu'on le sait pas, et qu'en plus, on panique même plus. Là, ouais, tu pourrais faire ça.
T'as raison, c'est vrai que c'est assez.
Et qu'à un moment, tu montes dernière minute. C'est après coup que tu dis ce truc que j'ai fait en dernière minute et que j'arrête pas de modifier pendant toutes mes occurrences de spectacle.
Ah oui, parce que je fais pas tout à la dernière minute. Tous les consultants pour l'exoconférence, tous les interviews, les machins, les trucs où je suis allé, où j'ai pan ou machin, ou truc. Tout ça, c'était bien avant.
C'est un peu comme nous, c'est que.
Il assimile.
C'est le côté écrire, c'est avoir l'idée en tête. L'écrire, c'est administratif.
Ouais.
Et pour moi, t'es pareil. Vous êtes pareil tous les deux.
Toi, tu veux l'idée en tête. On peut, quand on dit on écrit, des fois, on marche dans la rue pendant 5 heures.
20 minutes et puis après.
Et après, tu rentres chez toi, ouais, et en 20 minutes, tu tapes le truc et tu dis, allez, je vais le jouer dans une heure.
Donc, ça aussi,
je pense que ça se ressemble.
Écrire ces 20 minutes.
Parce que moi, je t'ai déjà vu en interview dire, j'ai l'exo-conférence où j'ai le truc en tête. C'est juste, je ne l'ai pas écrit. Je vois à peu près où je vais aller. Je sais comment je vais le faire. Et je vais trouver, tu vois, un peu comme une route GPS. Je sais vers quelle ville je vais. Puis je vais voir à peu près le chemin que je prends. Je trouve que ça se ressemble.
Après, je pense qu'il y a aussi un truc qui vient d'un complexe. C'est-à-dire que si jamais j'écris à blanc, à froid, avec le temps de le faire, je vais trouver ça pas assez bien. La seule façon que j'ai de couper ce truc de l'autocritique, c'est de dire, bah gros, c'est demain soir. Donc, soit t'y vas et t'as rien, soit t'y vas et t'as quelque chose, c'est à toi de voir. Et là, effectivement, ce qui sort, je le garde. Mais
la deadline.
Ah ouais, ouais. Mais c'est pareil pour le montage, c'est pareil pour tout. La musique.
Quand t'as du temps.
Ça veut pas dire que je suis pas dedans.
Tu veilles, t'es en veille à ce moment-là, t'es en veille. Tu veilles à ce que les idées, elles s'emboîtent et tout, mais...
Et puis, je crois qu'il y a une petite fin, quand même. Il y a une petite... C'est la fin quand t'as fini d'écrire, quoi. Ça cessera de grandir.
Il y a une angoisse autour de ça ? Il y a un peu une angoisse ?
Ah ouais, complètement.
L'angoisse de fin ?
Ah, ça, complètement. Parce que, par exemple, l'exoconférence, pour prendre ça en exemple, c'est l'histoire d'un... J'ai changé d'avis en écrivant l'exoconférence sur ces sujets-là.
C'était sur l'agriculture au départ.
Ouais.
Ça qui est ouf.
Et
sur les produits laitiers.
Et je ne savais pas grand-chose en plus.
Ouais.
Les produits laitiers, je me disais, bon...
C'est du lait.
Les gens n'en parlent pas.
C'est beaucoup Étienne Klein qui disait, écoute, je n'en sais rien. Arrête de m'embêter avec les standards de
partout. T'as envie de dire, il faut quand même trouver son originalité. J'avais des produits laitiers. Bon. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose des produits laitiers. Et qu'en plus, même si je savais, ce n'était pas fou non plus.
même en s'y penchant, c'était aussi intéressant.
Du coup, je suis parti sur autre chose. J'ai changé d'avis.
Ouais. Non, mais effectivement, c'est le. En tout cas, tout le temps que j'ai mis à penser à l'exoconférence et à découdre le pullover et à la recoudre autrement parce que au bout d'un moment, tu gagnes de l'expérience dans les choses. Au bout d'un moment, si tu vas sur scène, c'est que tu vas montrer cette expérience que tu as gagnée dans un domaine de pensée. Tu vois, tu as raccroché les trucs, puis tu n'y as plus cru, puis tu l'as repris. L'exoconférence, c'est ma dernière idée à ce sujet. C'est celle de la veille. C'est pas celle de 6 mois ou 8 mois avant.
Évidemment. C'est logique.
C'est la plus mûre, c'est la plus fraîche et c'est la plus incertaine, la plus instable comme ça. Parce qu'elle est pleine de dilemmes et tout ça. Donc, c'est celle-là que je voudrais montrer, moi.
Je trouve pas qu'il y a une différence entre la fiction vidéo, type Kaamelott, et la scène, justement, puisque vous avez la particularité, nous avons peut-être la particularité de faire les deux. C'est seulement quand, pour nous, l'œuvre est morte, puisqu'elle est figée et qu'en fait, elle est morte, elle ne pourra plus jamais être vivante, qu'elle devient vivante pour les gens. Alors que le spectacle a ce truc bizarre où c'est vivant en même temps pour toi et pour la personne qui est en train de le regarder. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire et surtout alors, si ça sert à quelque chose.
Je ne comprends pas, je ne veux pas où tu veux en venir, excuse-moi.
C'est-à-dire que...
Moi si, mais je...
On écrit bref, on tourne, ouais, tu vois, je vais le dégommer cet enculé. On écrit bref, on tourne bref, on monte bref. Le moment où on n'a plus la main dessus, c'est comme s'il était mort pour nous, c'est-à-dire qu'il a existé. Ce truc était vivant avec nous, l'idée, oui, nous, le machin, le truc.
Moi, l'intérêt tombe au moment donné où je lis.
C'est mort.
C'est mort, c'est fini. Je ne vais même pas le regarder, je m'en fous, en fait.
Voilà. Mais c'est seulement à partir de ce moment-là que ça devient vivant pour les autres. Tant qu'il n'est pas mort, tu ne peux pas le montrer aux autres. Il n'est pas fini de monter, t'as pas dit valider. Quand tu dis valider, tu le tues un peu.
Ouais, c'est vrai.
Et il part.
Tu tues ton projet de le parfaire, en tout cas.
Comme si ton enfant mourait pour toi en tant que parent, parce que tu n'es plus son parent.
Alors qu'au contraire, moi, il accouche et maintenant, il fait sa vie.
Et le spectacle vivant, t'es encore en train de l'écrire et de le changer, c'est encore vivant pour toi pendant que c'est vivant pour les autres, jusqu'à la capta en général.
Mmh, bah oui, c'est deux arts différents, oui, tout à fait.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Ok.
Non, c'est bien.
Ça sert à rien.
Non, c'est pas ça, c'est que...
Le bleu et le rouge, vous trouvez pas que c'est deux couleurs différentes aussi?
Alors attends, comment tu...
Mais vous avez pas l'impression quand même, que il faut pas trop jouer le même spectacle?
Ça, c'est lui qui sait. Moi, je pourrais
pas. Vous n'avez
pas
l'impression des fois que vous montez sur scène en disant, mais je ne sais pas si j'ai vraiment encore envie de dire ça.
Bill Burr dit, à un moment donné, il est trop cuit. Il faut le capter quand il n'est pas encore cuit. il est juste à point, et là, tu le captes. Je suis confronté à un nouveau cas, là, c'est-à-dire que j'ai fait 130 dates de mon spectacle, j'étais trop bien, et là, je pense qu'on a la version ultime du spectacle. On change un détail tous les soirs, on améliore un détail, on n'est plus que dans un micro-détail, un regard, un truc qui rajoute un rire, une applause, c'est simple. Moi, j'ai eu un an et demi de pandémie. Donc, j'ai eu un an et demi de sevrage où j'ai dû réapprendre à vivre sans monter sur scène, ce que je fais depuis 15 ans. Donc, c'est un nouveau travail qui renaît. Et le spectacle, j'ai dû réapprendre à remonter sur scène sur un spectacle. C'est des nouvelles sensations qui reviennent. Mais elles sont nouvelles, c'est différent. Mais j'en ferai pas l'ancien spectacle Pulsion, qui traitait du deuil, qui traitait des choses un peu dures, un peu lourdes. À un moment donné, je ne pouvais plus en le jouer. J'en ai fait 200, 210, je crois. Je ne pouvais plus le jouer. À un moment donné, j'étais là genre, non, maintenant, c'est bon. Il faut que je passe à autre chose. J'ai raconté mon message. Il est là, je le capte. Les gens qui veulent le voir, oh, mais moi, j'ai plus à le jouer. J'ai plus à retourner dans ce trou noir, par exemple. Tu vois. Et celui-là, bah, il est différent, il est plus léger. C'est un pote.
Ouais, mais ce qui me frappe dans celui-là, moi, c'est à quel point ça n'a plus aucun lien avec ta vie.
Ah bah oui.
C'est que tout a changé dans ta vie.
Tout a changé, oui.
En 3 ans.
Et donc, est-ce qu'on ne sort pas sur notre petite idée de l'ingénieur et de celui qui est concerné?
Ouais, est-ce que, ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que là, t'es plus du tout...
Qui va à ta première question, les gens qui veulent écrire parce qu'ils ont une idée, un truc...
T'es plus du tout la personne que tu es sur scène. À un moment, c'était une espèce de photographie de toi. Et maintenant, là, c'est vraiment une photo jaunie de toi, tu vois. C'est-à-dire que moi, ça m'a frappé parce qu'il y a eu la pandémie, je pense. Et que du coup, on a eu une distance plus longue que d'habitude. Puis l'exploitation va être un peu plus longue de ce spectacle, je pense. Elle a été plus longue. Du coup, je suis là, je me dis, mais c'est fou parce que... Tout ce qu'il raconte, ça reste vrai, ça reste
tout
le
est vrai et fondé vrai. Et ça mais reste, ça reste des belles choses, enfin des choses très marrantes et très rigolotes à raconter, tu vois.
Ouais, mais c'est plus toi du tout.
Oui, mais quand je raconte, par exemple, dans mon
enfance, ça reste tes valeurs. Mais ce que je veux dire, les anecdotes que tu racontes, tout ce que tu racontes, la situation dans laquelle t'es dans le spectacle n'est plus du tout ta situation.
Les valeurs sont fondamentalement les miennes encore aujourd'hui. Les valeurs qui sont dans le spectacle.
Mais on dirait un rôle, quoi.
Non, parce que quand tu racontes une histoire de ton enfance, tu n'es plus toi en enfant.
Ça, d'accord. Mais on va dire la base du truc.
Non, ça me va parce que c'est un désir d'amusement. J'ai encore.
Je dis pas que c'est un problème. Je dis que ce n'est plus.
Mais de toute façon, tout ouvre artistique. Même tu prends les musiciens, ils font un album. Au moment donné où ils font les musiques, ils les ont tournés un peu en tournée. Ils se disent bon, il faut faire un nouvel album. Ils vont en studio, ils font le truc, ils le livrent. Et après, tu arrives et tu dois faire la promo du truc. T'as fait le deuil de tes chansons. Déjà, il y a belle lurette. Les gens qui font des films, c'est 5 ans de travail, un film. Entre l'excitation de l'idée et le « je fais mon interview sur Combini », toi, ton film, tu l'as vu en long, en large, en mix, en étalonnage, t'en peux plus. Et pour les gens, c'est nouveau et tu dois...
Non, mais ton film, tu dois pas le rejouer.
C'est vrai.
Bercy, alors, ça représente un truc un peu particulier en lui-même, donc ça devient un nouvel exercice, un peu. Mais à part ça... je me disais, quand même, on est à l'époque de la captation, on est à l'époque où... Alors, c'est pas toujours génial de voir un spectacle en capta, on le sait tous, mais moi, au bout d'une centaine, je me dis, est-ce que vraiment il faut retourner là encore pour 2 heures, redire ça Ouais, je suis pas un pro de refaire, moi. Au contraire, même. Je pense que, tu vois, il y a la première. Quand je sors de la première, j'ai envie de dire, bon,
c'est bon, on l'a tous vu.
Ça va?
Pas redire. C'est bon, c'est là, c'est bon. Fallait être là.
Les enfants, au premier jour d'école, ils ont fait comme ça aussi. Premier jour de maternelle. Tu les prépares, ça va être l'école, le cartable, machin, truc. Ils reviennent le soir, hyper cool. C'était cool, hein. Ah, mais on...
On peut y retourner.
On retourne demain? D'accord. Mais jusqu'à quand? Et c'est là où il faut...
Ah, jusqu'à quand? Bon, allez, on va manger. Et j'assume ton rôle complètement. Oui, bah oui, il faut aller manger.
C'est sur un bon minimum 12 ans. Hein. Fais ça 12 ans, hein, en boucle.
Tu sais que si on m'avait proposé ça, j'aurais pas dit oui. Hein.
Ah bah moi non plus.
Si on m'a dit tous les matins, tu vas te lever, et des fois, tes parents, ils vont dormir, il fera nuit, jusqu'à 8h30, 9h, il fera nuit, et tu vas rentrer, il fera nuit. J'aurais dit non.
C'est la nuit qui t'a touché, toi, j'ai l'impression.
Pour le coup, ouais. Mais c'est l'absence de lumière, quoi. Ouais. Tu restes enfermé quand t'es en lumière, t'es enfermé dans un truc.
Parce que c'était au pôle Nord, toi aussi. Donc
pour le coup,
c'était au pôle Nord. Très long.
Pour le coup, c'était. Ouais. Oui.
Toutes les vacances.
Ah, ouais, pour le coup, ouais. J'avais besoin d'un peu de soleil, avec 2 heures de soleil par jour.
On commence par là, parce que ça c'est.
Quand on était perdu, cette histoire de il fera nuit, il fera nuit.
C'est vrai que ça joue dans l'histoire.
C'est pas le truc principal de l'école, il fera nuit, c'est bizarre.
Non, c'est vrai. Non, mais te lever quand t'es. Le matin, il fait froid aux pieds, tout ça. J'ai pas mon truc. Mes parents ne mettaient pas le chauffage.
Un truc avec ses pieds aujourd'hui.
Surtout quand tu fais de la musique dans ta chambre jusqu'à 4h du matin et que le réveil sonne à 6h45. Ça, alors là...
Ah, t'aimes pas du tout.
C'est les moins cool. Venons, on dit qu'on arrête l'école. Il n'y aura pas d'école dans notre secte.
Non, il n'y aura pas d'école dans notre secte.
En plus, ça permet de garder des gens à un niveau intellectuel. Ils ne vont pas remettre trop de choses en question. Du coup.
C'est le... Il y aura autre chose. Faire, il y aura autre chose.
On déscolarise en général.
Il y aura beaucoup d'enseignement, au pluriel.
Il faut un accès à YouTube. Moi, je veux un accès à YouTube parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur YouTube et TikTok. Comme ça, ils peuvent apprendre des trucs, les gamins.
Je ne sais pas s'il faut trop qu'ils s'ouvrent au monde extérieur. Si on veut bien
les garder. Dans une fermeture du monde extérieur, carrément.
Il faudrait notre YouTube.
On parle d'une secte en même temps.
Notre YouTube, bien sûr. On dit, t'as vu, c'est le monde.
Tout à l'heure, on veut faire une secte, on dirait, tu veux ouvrir un club de ping-pong. C'est une secte.
Nous, c'est, c'est The Village. On te parle de The Village.
Ah, waouh. Spoiler.
Ouais, c'est vraiment le spoiler.
Pardon, tu couperas, on mettra en bipras
The Village. On n'a pas le droit de spoiler un truc à 20 ans.
Si, bon, si, à un moment donné. Voilà,
je sais pas quand est-ce qu'on a le droit de spoiler un truc.
Il fallait aller à la bibliothèque, aller prendre le DVD, et puis voilà, bah non, c'est pas ma faute. Bon, on n'a pas le droit de spoiler, on va dire. Allez, on bipera.
On bipera. Les gens comprendront, de toute façon.
Il faudrait peut-être, si c'est une secte apocalyptique ou avec visite extraterrestre, il faudrait peut-être quelques effets spéciaux. Il faudrait peut-être que de temps en temps, sur une colline...
Un petit miracle de...
Alors moi, j'ai un système de tulle qui est hyper bien. J'ai un pote qui fait ça. Ça fait apparaître des trucs, c'est pas mal.
Si c'est loin, ça peut faire...
Ah ouais, ça fait complètement le boulot. Ah ouais, de loin, c'est super.
On prend des mentalistes. On demande à Fabien Licard, des gens comme ça, peut-être. Tu vois.
On peut faire moins
chier. Tu t'appelles comme ça, toi enfin, c'est bon.
On peut faire moins chier aussi. J'ai déjà un pote qui est truquiste. On file la montagne, il rajoute un truc et on est. Tu vois, un regardez peu ce qui s'est passé hier. Tu vois, on fait genre. C'est
ah oui, alors ça, d'accord. Mais par contre, peut-être faut arrêter de faire venir des gens dans cette secte parce qu'on va être obligé de partager le pognon si on fait venir trop de gens.
Non, bah, il faut que les gens rapportent plus qu'ils ne nous coûtent.
Oui, mais là, vous faites venir Olicard, vous faites venir JC, vous faites venir.
C'est vrai que ça fait beaucoup de monde.
Mais non, mais après, c'est vrai qu'on
est là pour le pognon.
Oui, c'est pyramidal.
Attends, c'est pas
bloc en haut. Plus
après,
non, mais ils sont pas en haut de la pyramide.
Ah, d'accord.
On les recrute.
Mais
ou alors,
qui te dit qu'Olicard va vouloir rentrer dans un poste subalterne? Non.
On le surfacture un peu. On lui
dit peut-être
il reste
un dé.
Hop, ouais, c'est un indé. Bien sûr, c'est un
prestataire.
Bien sûr, c'est un freelance.
Il fait une presta. Une petite presta dans la secte.
La TVA, un petit pour les choux la table et comme ça, voilà. On équivalent, les comptes sont bons, quoi.
Klein aussi. Il nous facture directement depuis le commissariat à l'énergie atomique, peut-être.
Oui, enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, après, c'est de la comptabilité, les gars. Il y a tout un système de société écran. Bah,
et donc, il nous faut un comptable, parce que c'est pas moi qui le fais.
Ah, non, pour le coup, moi, je suis pas...
Ouais, je veux bien le faire, moi.
Genre, n'avoue. T'es un grand fan de Louis de Funès. Louis de Funès, un jour, a déclaré « Les artistes comiques sont des auteurs ». Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Et on devrait d'abord... leur demander d'écrire leur texte et de dire venez, vous écrivez votre texte, vous-même, vous êtes marrant, venez et on verra.
Après, il a fait ça.
Ouais.
La biche.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je sais
le gars
n'est
pas
mais...
d'accord avec Louis.
Ben là, je suis pas d'accord, mais par contre, je comprends pourquoi il l'a dit. Mais ça veut pas dire que je suis d'accord.
C'était un peu pour défendre son...
C'est parce qu'il en avait marre qu'on lui dise « fais ça » et ça ouais. marche pas, alors qu'il avait une intuition, on n'écoutait pas son intuition, en fait, c'est surtout ça.
Oui, c'est arrivé quelques fois. Et alors du coup, après, on peut se poser la question de la filmographie de Funès. C'est que quand on aime beaucoup de Funès, on est de temps en temps obligé de l'aimer malgré les films.
Le Grand Restaurant qui a une demi-heure incroyable, la première demi-heure est folle, le ouais. reste est un navet.
C'est pas très bien. Rabbi Jacob, je sais qu'il y a des passionnés, mais en fait, si on le regarde un peu de près, c'est pas si ouf que ça. Les loups, la cuisse, la rencontre de Coluche chez lui, il y a plein de jolis trucs, mais c'est... Je pense que des fois, il y a quand même... le petit baigneur. Le petit baigneur, par exemple, il y a des choses qui sont folles dans le petit baigneur. Quand il vire Castagnier avec les tubes et tout, machin, ça c'est génial. Mais je ne me souvenais pas à quel point dans le petit baigneur, il y a trois quarts du film qui se passe sans que De Funès dise un seul mot. C'est que des gags visuels avec des trucs, il est dans un bateau, un machin. C'est quand tu as De Funès, tu as envie de dire au mec, non mais mettez-le dans des situations. Faites pas ça, ne faites pas... C'est pas ça qu'on a envie de voir de Funès, il faut qu'on l'entende, il faut qu'il joue. Et je pense qu'en fait, l'industrie lui a mis le grappin dessus et l'a mis là. Alors des fois, avec des choses merveilleuses, hein, comme Folie des Grandeurs, des choses comme ça, mais souvent quand même avec des trucs un petit peu un poil populo qui sont pas chouettes, quoi. Alors après que ce mec-là, au milieu de tout ça, au milieu de cette industrie, ait dit « Mais faites-vous, vous me dites de faire ci, ça, mais moi, je sens bien avec mon instinct que ce n'est pas là qu'il faudrait que je sois. Et puis peut-être même que ce n'est pas ça qu'il faudrait que je dise et que je le comprends. » Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que...
C'est propre à lui. Est-ce que c'est parce que moi,
non, c'est propre à ceux qui l'ont...
Moi, je ne connais pas bien Louis de Funès, mais est-ce que ce n'est pas un peu le même effet qu'il y a eu avec Jim Carrey? Ou en gros, Jim Carrey, bah oui, c'est un génie. Donc, dans Dumb and Dumber, quand c'est lui qui a l'image, c'est génial. Mais le film Dumb and Dumber 2 peut être nul ou tu vois. Et donc, du coup, est-ce que quand Louis de Funès, il dit ça, en fait, pour 99% des comédiens, c'est pas vrai. C'est vrai pour lui. Laisse de Funès faire ce qu'il a à faire parce que s'il est là...
Comme
c'est
Jonathan Cohen, par exemple.
Comme Jonathan Cohen. Mais imaginons que Jonathan Cohen dit « Non, mais il faut laisser tout le monde improviser maintenant. »
Oui, les gens, ils sont pas faits pour ça.
Donc, est-ce que De Funès parlait pas de lui, en fait? Est-ce qu'il aurait pas dû juste le garder?
Ce qu'il veut dire, c'est d'avoir plus de présence, peut-être, aux lectures et aux suggestions dans les répétitions. Tu vois, je pense que t'es assez ouvert à ça, toi, ou pas?
Non.
Quand un acteur répète, il te dit, j'ai peut-être une idée. C'est bon à savoir, si vous tournez avec, de lever que c'est pas.
Non, mais si je saurais voir si ça. Mais généralement, c'est écrit pour lui, de toute façon, donc ça. Je crois qu'il y a aussi un petit pépin de ça, c'est que tu parles de Jim Carrey, mais Jim Carrey et De Funès, ils ont un autre point commun un peu tristounet. C'est que
ils sont morts.
Si tu... Alors, deux points communs un peu tristounet.
Il n'est pas mort, Jim Carrey.
Non. Enfin,
pas encore.
Ah, ça vient de tomber.
Faut regarder la fin de l'émission, mais...
Je porte la poisse, c'est écrit là.
Non, mais c'est qu'en fait, si tu demandes à les gens pourquoi est-ce que De Funès est connu, 9 réponses sur 10, ce serait une connerie. Parce qu'il fait des grimaces, parce que je sais pas quoi. Jim Carrey, c'est pareil. C'est quoi Jim Carrey? C'est quoi le génie de Jim Carrey pour vous? Souvent, la réponse, ça va être bah, il a un visage, une plastique, c'est un super acteur, c'est tout. Les deux sont des acteurs géniaux. Quand tu vois De Funès dans L'Avare, même un peu cheap, où il a, tu vois, c'est une petite prod, L'Avare.
Dans La Soupe aux Choux? Dans La Soupe aux Choux, alors, hormis l'épée, quand la Francine revient et qu'elle repart, là, il est méga, méga touchant.
Absolument.
Ah, mais là, il est bouleversant.
Et la cassette dans L'Avare?
Ah oui.
Quand la cassette est déterrée et qu'elle n'est plus là et qu'il fait une déclaration d'amour à sa cassette au mot près, hein, Molière, rien changé à Molière, c'est un avare époustouflant. Et c'est un avare époustouflant au nez et à la barbe de plein d'avares époustouflants qu'ont connu la Comédie française et tout le monde. C'est un avare dingue. Mais les gens, il n'est pas connu pour ça. Donc du coup, on ne fait pas des films tout à fait pour le faire jouer. On fait des films plus rigolos qui... Carré, c'est un peu ça aussi, de temps en temps, t'as juste envie qu'il joue, quoi. Et moi, j'ai même pas forcément envie qu'il joue dans les comédies.
Eternal Sunshine.
Oui, ou...
Madame de Moon.
Bien sûr.
Madame de Moon, il est sublime.
Il joue, quoi. Il joue. Donc, mon avis, non, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il faut qu'ils écrivent leurs textes, mais je pense qu'il faut qu'on les appelle pour les bonnes raisons.
Et Ace Ventura aussi. Le moment de jeu, là, quand il prend ses fesses comme ça et qu'il dit « Oh, sole mio, oh, sodomia ». C'est beau, ça.
C'est vrai que c'est poétique.
J'avais zappé ça.
J'ai fait un déni. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Alexandre? Meilleur conseil.
Tout confondu?
Ouais. Dans n'importe quel domaine.
C'est dur.
Bon, ça, c'était plus un compliment. Mais en conseil,
c'est Barack Obama.
L'anecdote, elle est puissante.
Mais il savait pas qu'il me donnait un conseil à moi.
D'accord. Il a donné un conseil au Laurent.
Non, mais je m'en sers beaucoup. Parce que je suis souvent très touché par les critiques. Notamment de mauvaise foi.
Critique de mauvaise foi?
Pas une critique négative, une critique qui est de mauvaise foi.
Ah non, une critique négative de quelqu'un qui est constructif et intelligent de sa manière de ne pas aimer, ça va. Mais c'est les saloperies d'Internet, quoi, machin. Alors, et c'est vrai qu'il y a une phrase d'Obama qui me sert bien, c'est en fait, si j'avais pas pu supporter la critique, j'aurais pas dû faire ce métier. Alors que c'est tellement net dans son cas à lui
ah oui, j'avoue.
Que du coup, tu te dis. Ah, ben oui, c'est ça, en fait. Ça vient avec, c'est tout.
Ça fait partie de la valise.
Ouais. Mais alors, du coup, ça, je trouve que c'est un conseil qui est pas mal. Il y a un autre conseil qui est très, très bien, qu'on m'a toujours pas donné à moi parce que je les vole aux autres. C'est, alors c'est en anglais, ça sonne mieux en anglais. Love the art in yourself and not yourself in the arts. Il y a beaucoup de gens, de débutants, dont tu parlais, qui aiment la position de l'artiste. Ils aiment être un artiste. Et en fait, ce qu'il faut aimer, c'est un artiste qui est en toi, mais c'est ce que tu fabriques que tu dois aimer.
Donc, tu es la conséquence de ce que tu fabriques.
Et du coup, c'est la notoriété est vachement plus supportable comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas un mec qui cherche à être connu. Je suis un mec qui aime fabriquer des trucs.
Qui que font, entre autres, que tu es connu.
Après, il se trouve
ça
que...
Ça peut arriver que voilà. ça te médiatise.
Mais je retourne à fabriquer des trucs.
Dans ta petite cave,
c'est ce que j'aime.
Voilà.
Donc, c'est ça le métier pour moi. C'est pas viser un personnage qu'on va devenir avec le travail qui deviendrait plus qu'un vecteur pour y arriver.
Vous voyez déjà, et tous ces trucs-là, c'est vrai que le... Tu vois, dans l'idée, la personne se projette dans le moment où on est en train de l'applaudir. Je me voyais en haut de l'affiche, mais on ne sait même pas ce qu'il y a sur l'affiche.
Mmh.
Il ne dit pas « Ah, j'imagine un jour, sur l'affiche, il va y avoir un truc, les gens vont dire « ça, c'est bien ».
Et il
c'est
décrit lui qui est en haut de l'affiche. Il décrit quelqu'un qui va être connu, du coup.
Oui, c'est quelqu'un qui va être connu, je me présente, je m'appelle Henri et tout. En fait, tu te rends compte qu'ils ne disent pas « j'aimerais bien créer un truc ». Il dit « j'aimerais bien être connu ». C'est même peut-être un mal avec les micro-célébrités telles qu'elles existent maintenant avec Internet et les réseaux sociaux.
Alors ça répond exemple, à ce besoin. Je sais pas comment ils font.
Ça répond à ce besoin d'être connu plus qu'à un besoin de créer.
Ça a devenu une vraie valeur pour les jeunes, enfin les jeunes plus jeunes que nous.
Bah, c'est-à-dire, je sais pas comment font les mecs pour être connus pour rien. Je trouve ça extrêmement dangereux. Ils s'en sortent pas tous, hein. Il y a quelques dépressions.
Ouais.
Mais être connu pour rien, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud.
Parce qu'après, connu, quoi.
Comment tu fais pour te prendre en photo avec des gens, machin, etc. Quand tu te prends en photo avec des gens, que tu signes des trucs, tu te dis, ça a une valeur pour la personne. Moi, je vois pas trop, mais on s'en fout. C'est ça. Mais moi, une fois que j'aurai signé ce truc, j'aurai pris une photo, ou qu'il y aura une standing à Bercy ou machin, je rentre chez moi, et si j'ai envie de refabriquer des trucs, je refabrique des trucs. Tout ça a été un passage, quoi. Mais ceux pour qui ce passage-là, c'est le truc.
Ouais, c'est pour ça qu'il y a des dépressions, parce que ton seul objectif, c'est de continuer de l'être. Tu veux pas retomber dans l'oubli.
Tu peux pas le perdre. Et pourtant, ils le perdent vite.
Non, ça, ils peuvent le perdre. En fait, ton seul but, c'est de continuer d'être connu, puisque c'était le but.
Les gens, quand ils te reconnaissent, ils te disent juste « je t'ai reconnu ».
Oui,
je t'ai reconnu.
Ils sont pas admiratifs.
Ah bah, je t'ai reconnu. Et en fait, la notoriété s'est détachée de la créativité. C'est assez fou, hein. Ça, c'est un truc qu'on constate, c'est dingue. Et c'est devenu aussi une vraie valeur. Il y avait un sondage qui disait aux enfants qu'ils voulaient faire plus tard, et ils étaient faire des vidéos sur
être connu.
Ouais, être connu. Enfin, le but, c'était de dire avoir des abonnés, quoi.
Ouais.
Tu likes une photo sur Instagram, c'est un événement pour une personne. C'est j'ai eu 112 likes sur ma photo, c'est un truc de
sur
ouf.
Sur ma photo de moi.
Non mais.
Sur une photo de moi.
Ouais, c'est ça, c'est un truc de ouf. Alors que.
Il y a 112 personnes qui ont dit, toi, tu pourras par contre me liker après.
On enlèvera les réseaux sociaux dans la secte.
Ouais,
on en crée un.
Non, ou alors on les distribue. Avec parcimonie, justement. On dit, plus tu grimpes, plus tu auras des likes. Ça a bien marché, ça.
Tu sais, rien que pour la connerie de faire cette secte. Pour secte la connerie, juste, on fait un site internet et tout. Ce truc avec nos secte photos et tout. Les gens font des faux fidèles.
Alors attention, les sectes s'appellent pas sectes. Hein. Donc il faut, ouais. Faut bosser le discours.
On est un mouvement. On est un groupe.
Non, on n'est pas un groupe. On est une synergie. On est une start-up. Start-up, ça passe bien. Actuellement, c'est bien un start-up. On met un baby-foot, c'est bon, on est une start-up.
Ah oui, c'est vrai. Je pensais que tu n'avais pas dit baby-foot.
Ouais, il faut mettre baby-foot.
Et des hamacs.
Bah oui, des hamacs et un start-up.
Des fat boys, là.
Tu peux t'en mettre dedans. Cirette, enfin, on est totalement légal et enregistré tout.
Je suis enchanté.
Est-ce que tu as quelqu'un à recommander, Alex? Quelqu'un que tu aimes bien? Soit un jeune artiste que tu aimes bien, que tu as vu sur Internet, ça lui ferait un beau big up, il serait très content. Ou une œuvre que tu as vue récemment, ou c'est pas même une œuvre ancestrale qui fait partie de ton.
Ancestrale.
Bah oui, ça peut être un morceau de Bach,
un
ça
crâne.
Peut être plein de choses. C'est ancestral, Bach. Ça fait partie de nos ancêtres de l'humanité, Bach.
Vous voulez une œuvre ou une personne? Ce qu'on veut.
Une personne connue. Nous, on veut quelqu'un de connu. On veut savoir qui est connu.
Et big up à l'homme du supermarché qui a rencontré Jésus. Lui, qui repart avec une crotte de nez.
Absolument.
Une chaîne YouTube. Ça peut être n'importe quoi.
Un bouquin.
Une série, un bouquin.
BD.
Un épisode d'une série.
Un plat, un resto à Lyon. On vient à Lyon dans pas longtemps.
Un bouchon lyonnais, un bouchon.
Je bouffe pas trop dans les bouchons.
On va jouer à Lyon, t'es venu ou pas? T'as pas vu encore?
Ah, tu veux que tu viennes? On fait deux bourses du travail là.
Ah, très bien, les bourses du travail.
Ah ouais, il faut que tu viennes, c'est une super salle en plus.
Très bien, les bourses du
on
travail.
On peut permettre de t'inviter?
Absolument. Eh bien, écoutez, jetons un truc sur la table.
T'es pas obligé, hein, s'il y a rien qui te plaît en dehors
si,
de.
Si, 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 qu'est-ce que
je. De Audiard, tu peux dire Audiard. Je vous conseille Audiard.
Ah non, il est là, Audiard. Enfin, si t'as envie d'aller le chercher, t'as pas besoin de moi.
Tu cherches un truc que les gens connaissent pas, quoi, ça. Un truc où il y a moyen...
Tu geeks beaucoup sur YouTube, tu tournes beaucoup sur YouTube, tu geeks pas mal.
Ouais, pas forcément sur YouTube. Non, qu'est-ce que je... Eh ben si, je vais mettre en avant... je vais mettre en avant le langage Python.
Oh, et ben alors, ça part en programmation.
Voilà. Je conseille aux jeunes auteurs de commencer à se fabriquer des petits robots assistants écrits en Python.
Tu développes, écris en Python ?
Ouais. Et j'essaye de me fabriquer un C3PO.
Avec des Arduino.
Parfait pour la secte.
C'est nickel. Bah
oui, mais ça tombe à point nommé.
Ouais.
Bah les Pythons, ça s'appelle les Pythons, la secte, c'est la secte des Pythons. Ouais. Tout le monde doit écrire en Python.
Des Pythons ? Et le gars doit répondre, t'inquiète.
Ah, le gars doit répondre en Python.
Ah oui, bah oui, carrément.
Et je sais pas comment c'est comment les Pythons. Crochet, quelque chose, crochet, val, point, virgule.
Ah oui, si tu peux trouver là. Si, tu peux trouver l'exact de début. On peut trouver un joli truc, ouais.
Est-ce que t'as passé un bon moment, Alex ?
Est-ce que tu lui demandes pas comment il fait pour aller bien ?
Ah oui, c'est vrai, tu vois.
C'est ta question préférée,
tu c'est vrai que je la mets pas tout le temps. Mais
pas tout le temps, mais ça m'étonne que t'aies pas envie de savoir comment.
Qu'est-ce
Alexandre...
que tu fais pour aller mieux ?
Quand ça va pas, quoi.
Pour aller mieux. C'est pas forcément quand ça va pas. Pour aller mieux.
Non, je pensais que c'est ça ta question.
Oui, mais c'est en fait, ça s'interprète comme on veut.
Chacun entend.
Voilà, exactement.
De toute façon, et j'ai un peu niqué l'effet.
Non, pas du tout.
Putain.
Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Des activités qui ont une finalité indiscutable. C'est-à-dire tout sauf nos métiers, en gros.
C'est pour ça qu'il a beaucoup d'enfants. Tu vois.
Le code.
Il veut qu'il y ait une finalité.
Ouais, le code.
Le code.
Résultat. Tu fais ça. Ça
laver des vitres. Pas laver la table. C'est toujours une merde, un truc d'œuf, machin. Laver les vitres. Laver une bagnole, pour peu qu'elle soit pas cabossée, une belle caisse.
C'est-à-dire la finalité indiscutable. Qu'est-ce qui rend discutable ou indiscutable la finalité ?
C'est fini. Il est indiscutable que c'est fini. Une vitre, quand elle est bien propre, c'est fini.
Ah, t'aimes bien finir, quoi.
Une table.
Complétiste, alors. T'aimes bien, t'es complétiste.
Ouais, et le code, il y a un truc assez. Alors, il y a plusieurs manières d'arriver à un résultat par le code. Mais quand même, quand le résultat est atteint, il est atteint indiscutablement. Il est là. Les maths, ça aussi, ça fait du bien, en fait. Parce que, tu vois...
Un petit calcul mental, un petit truc.
C'est celle-là, c'est ça, quoi.
Oh ouais, c'est tangible.
Pour aller bien, j'apprends un truc, voilà. Je vais sur LinkedIn Learning,
LinkedIn Learning ?
Ouais.
Learning ?
C'est quoi ?
Avant, c'était Linda. Ça s'appelait linda.com et...
Microsoft l'a racheté.
LinkedIn.
Ils ont donné un milliard, ils ont dit, on veut un milliard.
Et du coup, voilà. Non, c'est des cours.
Je savais pas.
Je prends un cours. Je prends des cours. Tiens, voilà, pour aller mieux, je prends un cours de quelque chose.
En rapport avec la raison pour laquelle tu irais pas bien ou pas du tout ?
Non.
C'est pas forcément pour creuser.
Je reprends un cours d'orchestration parce que j'ai oublié des machins. Je un truc de code, oui, pourquoi pas. J'apprends un truc et ça, je vais toujours bien quand on m'apprend un truc. Avec passion, hein, avec quand même par quelqu'un qui aime bien ce qu'il fait, quoi. Généralement, quand j'ai le temps, c'est vers ça que je me précipite en premier.
Chambé.
Ou un petit Lego.
Un petit Lego. Ça, c'est fini, un Lego.
C'est bien fini, un Lego.
Ouais, indiscutablement.
J'adore maintenant acheter des boîtes de Lego et ne pas les ouvrir.
C'est pas mal.
Ça me réitère mon sentiment.
Parce que c'est la promesse que tu vas pouvoir le faire plus tard.
Et les promesses, elle est intacte.
Absolument.
Et ben ça, c'est, pour moi, c'est un truc... J'ai créé même une chambre chez moi où il y a toutes mes boîtes fermées. De Lego, de trucs.
Qui fait
parce
du
que...
tantrisme de Lego.
Ouais,
t'as un rapport tantrique au Lego.
Clairement, j'ai même des paquets de cartes, de paquets de panini fermés que j'adore parce que c'est exactement ce sentiment-là que j'aimais quand j'étais gamin.
Il te reste des choses pour jouer avec.
Voilà. J'ai et je pense que les gens qui collectionnent.
Ça te
des...
remet dans l'ambiance.
C'est le côté de magasin. C'est le moment, le meilleur moment, c'était au magasin quand on regardait quand on regardait l'arrière des boîtes.
Moi, je pense que ça me ferait ça si tu me retrouves genre la notice genre de Zelda sur NES.
Ouais.
Parce que c'est le truc que tu regardais quand tu peux pas jouer.
Ou même quand t'es dans la voiture et que ta mère, elle l'a acheté.
Ta mère, elle te dit pas avant le week-end. Et à l'école, tu dis, mais je peux au moins emmener la notice. Ouais. Et t'as la notice dans les mains et tu fais, putain, ce week-end.
Bah ouais, c'est ça.
Quand je vais appuyer sur A, apparemment, le
bonheur. C'est le tout est un truc. C'est exactement ça. Et donc, j'achète des boîtes de Lego et je ne les ouvre pas parce que ça...
Est-ce qu'ils t'en ont offert ?
Oui, ils m'en ont offert. Ils m'ont offert la Nintendo, la NES en Lego.
Ah putain, je l'ai pas celle-là. Il y a une très belle machine à écrire.
Ah, je ne l'ai pas vu, ça.
Fonctionnel ?
Je ne crois pas, mais tu peux quand même appuyer sur les trucs et il y a des petits bras, une espèce de Remington, un peu assez classe. Moi, ils m'ont offert le dernier forgeron. La forge. C'était un bâtiment médiéval avec une forge. Quand tu appuies sur un truc, tu as le feu en lumière. C'est très, très joli.
Bah, tu vois, j'aimerais bien avoir une version que je fais et une version en boîte.
Oh, tu as les moyens, je pense, de prendre les deux.
Non, mais mon objectif était simple. quand on aura 65 ans.
On les fait tous.
Ans,
hein, à un moment, on non, part. Et tous les trucs qu'on n'a pas ouverts,
la boîte
on les
sera
ouvre
neuve,
pendant 30 ans.
Et j'aurai des clients qui chercheront leur nostalgie. Et je leur dirai, mais les gars...
Ah merde, t'étais capitaliste en fait. Moi, j'ai creusé un business. Moi, j'étais parti dans le rêve. Quand j'aurai 65 ans, tous ces trucs que j'ai pas ouverts,
j'ai plaisanté,
on se pose à la maison plaisanté. Et on les fait pendant 30 ans.
Exactement.
Dans la maison de retraite.
C'est mon objectif.
Bah, 80 en plus, t'as dit 60.
Non, mais je trouve ça fort. L'objet non ouvert
ça te fait
me procure un plaisir.
T'as quel âge, Alexandre ?
47 ans.
47 ans, on n'est pas
bien.
Si loin.
Oh, t'es bien là.
Tain, je pensais qu'on était plus loin. Je suis vieux, ça y est. Tu te sens vieux ?
Pas tellement.
Ah, bon, t'es une shape quand même, t'es bien. T'es...
J'ai du reflux gastrique.
Ça, ça arrive. Mais c'est pas par rapport à l'âge. Hein.
Ça, c'est juste parce que t'es lyonnais.
Ça touche quand même un petit peu plus les gens de... qui s'approchent de la cinquantaine.
Ah bon ?
Ah, un petit peu, oui.
Je savais pas.
Ça sauf pas les top que... modèles. Top modèles, c'est plus quand elles ont 20 ans.
Gastrique. C'est horrible. Alex, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère que t'as passé un bon moment.
Absolument. J'ai mangé deux myrtilles.
Eh ben, écoute, yeah,
j'ai mangé toutes les autres.
J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission. C'est normal. C'est parce qu'il y a une énigme qui est liée à l'émission. Des indices se sont cachés dans l'écran, peut-être dans le décor, peut-être dans ce qu'on a dit. Si vous voulez vous faire aider, il y a le Discord de l'émission. Vous êtes à peu près 12 000 chaque semaine à essayer de détecter les indices dans l'émission et tout. Donc, n'hésitez pas à vous amuser, à rejoindre cette communauté. Ils sont hyper sympas, hyper cool et hyper investis. Si vous voulez nous soutenir, vous avez aussi uneboîteboutique.com. Il y a tout le merch de Bref, de Bloqué, de Serge, les bouquins, les œuvres qu'on a faites. Tout ça, tout est là-bas. Pulsion, il y a plein de trucs cool. Si vous voulez faire un cadeau, offrir, c'est vraiment le moment. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.